Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Studio 404.
Studio 404.
L'émission de société numérique. Numérique.
Studio 404, présenté par l'AM UA.
C'est bon, on est en direct en Mondovision. Je crois que l'émission est commentée par Dave et Olivier Fauchel. C'est la deuxième de 404 et vous, je suis ravi de vous accueillir ce soir en public, en direct, de la Gaîté Lyrique avec mes quatre chroniqueurs, notre réalisateur, notre cadreur, le staff de la Gaîté, Angie, notre voix, et vous en public. Je vous rappelle le concept, c'est une émission en live à tous les sens du terme, elle est en direct, on apprend le contenu en direct, on va le traiter en direct, et il va se passer plein de choses en direct parce qu'on est à peu près aussi calé que... une table Ikea après le premier montage. Ouais, c'est pas grave, ça va être plutôt bonne ambiance. En tout cas, j'accueille déjà nos chroniqueurs. Et le premier, c'est Daz. Ça va, Daz ?
Ça va très bien.
C'est bon, t'es chaud ?
Un petit peu, oui, ça va. Ça monte tranquillement, en pression.
T'as préparé tes phases ?
J'ai préparé ma chronique grâce au sujet que tu m'as donné cet après-midi. Désolé.
Tricherie !
En parlant de tricheuse,
avec ses trois chroniqueuses.
Voilà. En parlant de tricheuse, bonjour Mélissa qui est venue au hasard avec deux collègues.
Hey, la dernière fois, Sylvain avait un consultant avec un ordinateur.
Ça va Mélissa ?
Très bien.
Ça va bien. Alors c'est officiel, c'est ton mercato, on peut en parler et tout.
Ouais, je l'écris sur mon étiquette qu'on ne voit pas vu qu'elle est derrière ma main. C'est très pratique.
D'accord. Journaliste web.
À Slate.fr. Slate.fr, un site très bien.
C'est vrai ? Pas aussi bien qu'un autre site web.
Qu'il ne dit pas.
Qui fait un peu plus de visites quand même. Hein.
Bon, ça va si.
Clash respect.
Tout de suite, Sylvain, que son humeur de l'audience, carrément, qu'est-ce qu'il y a ? Bonjour Sylvain, ça va bien ?
Ça va très bien, tu as une jolie oreillette là.
T'as vu ?
Ce soir.
Une oreillette de hipster ?
Pas mal du tout.
Monochrome ?
Norme corps.
Non, sinon elle serait blanche. Sinon elle serait blanche. Et toi, Fibre, ça va ?
Ça va très bien.
Fibre, tu peux te lever, nous montrer un t-shirt, un autoportrait. Un autoportrait de Fibre, je veux dire, c'est
déjà
ça.
Déjà le merchandising. Au bout de 2-3 ans, je me suis dit, tiens, voilà.
C'est vrai, t'as pas fait assez d'argent avec ton jeu vidéo ? Ça s'est non, bien passé ton jeu vidéo depuis la dernière fois qu'on s'en est parlé ?
J'ai pas trop parlé d'argent, mais oui, ça se passe bien. Ouais.
Des chiffres ?
Des chiffres ? 50 000 ventes en 3 semaines.
Voilà là !
Bravo !
Bravo !
Pas mal. Pas mal du tout.
Voilà.
Et surtout des ventes sur Android, c'est ça le vrai exploit, je pense que ça.
Ah mais j'espère que tu feras un jour une chronique sur ça parce que les marchés, en fait, Android ça devient Google et Apple ça devient un peu Yahoo parce que Apple c'est à la main par des humains et Android c'est par des robots. Donc c'est.
Et bah pas de chance parce que ce sera pas ton sujet de chronique. Ah. Mais c'est pas grave. Alors je vous rappelle le principe. Donc normalement on donne des sujets aux chroniqueurs. Ce qu'on a changé par rapport à la dernière fois, c'est que ce coup-ci on va donner les quatre sujets aux quatre chroniqueurs et ils vont tous se casser. Voilà, ils reviendront ensemble pour éviter le côté un peu saucissonnage qu'il y avait eu l'autre fois. Par qui on commence ? Moi, je dis par Daz.
Oui,
Daz. Alors, du coup, on vous rappelle, donc, on va proposer des sujets, vous allez les choisir, et puis après, vous avez un quart d'heure pour les traiter avec une partie du public qui est acquis à votre cause et qui va venir vous aider à donner leur avis, à faire des recherches.
C'était pas peut-être rappeler les codes couleurs ?
C'était pas 20 minutes la dernière fois ?
Non, c'est un quart d'heure, mais toi, t'avais essaye débordé.
De raboter à
mais toi,
fois.
T'avais débordé.
Okay.
C'est une des promesses de l'émission de ce soir, c'est qu'on fera pas une émission de 2h40, c'est pas le Hobbit. Allez, Angie, premier sujet pour Daz.
La fin du high-tech, c'est la victoire de la technologie.
Alors, sur ce sujet...
C'est peut-être le ton qui n'aide pas à comprendre le sujet.
Alors sur ce sujet, on va juste parler du fait qu'aujourd'hui les gens n'achètent plus en comparant les specs, les machins, ils achètent juste si ça marche.
Ah, ok.
Voilà, et que les vieux poilus comme toi, par exemple, qui montaient votre RAM, qui checkaient votre voltage, qui regardaient les mégapixels, les mégahertz, tout ça, les benchmarks, en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui la technologie est tellement rentrée dans nos vies, finalement on s'en fout. Alors est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est vraiment la vraie victoire de la technologie de se faire oublier ? Ou est-ce que du coup les consommateurs sont peut-être moins éduqués qu'avant ? Deuxième sujet ?
Oui, s'il vous plaît.
Sujet numéro 2. Pourquoi le snobisme va sauver nos vies sociales ?
pour toi, ta, ça c'est, un, c'est du caviar pour toi.
Je sais pas d'où elle vient.
Mais non, mais non.
Elle est intéressante. Alors le snobisme, sous ce terme un peu troll, on parle beaucoup d'un trop de réseaux sociaux, trop d'interactions et le fait que les pratiques qu'on avait avant, qui étaient une sorte de netiquette et de bisounours où on s'ajoute, on se RT, on se follow back, on est amis avec tout le monde, on se rend compte que les gens commencent à se retirer, commencent à rejeter un petit peu, à se donner des règles un petit peu, hein, parfois
ah bon
débiles, parfois bien faites. Est-ce que c'est le moyen pour nous de continuer à aimer et à utiliser les réseaux sociaux ou est-ce qu'on va tous devenir des petits bourgeois et qu'on a peur de sortir de chez nous? Voilà, le sujet. La fin de la technologie ou le début du snobisme?
Je suis embêté parce qu'il y a un sujet intéressant d'un point de vue sociétal et un autre sujet très intéressant, n'est-ce pas, d'un point de vue trolling.
Est-ce qu'on est à Top Chef, hein?
Attends, s'il va y avoir des rebondissements pendant qu'il prépare son plat.
Est-ce que c'est possible d'entendre les sujets des autres avant de me décider?
Non.
Ok.
Est-ce que c'est possible de alors... prendre un de ces sujets parce que le premier est pas mal?
Non.
Non, mais moi je vais prendre le premier, ouais. Tant pis pour le troll.
D'accord, très bien.
Voilà. Eh oui.
Grosse déception.
Eh oui.
Lâche la raison pour Daz.
Bon, Daz, je te remets.
Faudra juste me le répéter, par contre. Hein.
On a des moyens de ouf. On a des fiches.
Incroyable, ok, voilà. D'accord.
Avec des pitchs, des pistes, tout ça dessus. Deuxième personne, ça va être Fibre, du coup, puisque t'es passé dernier la dernière fois.
Ça marche.
Fibre, Angie va te proposer, notre voix va te proposer, la voix va te proposer deux sujets.
Inventons une nouvelle saga.
Alors ici, le but du jeu.
C'est tout.
Voilà.
Tu te démerdes. Du silex à l'iPad, c'est ça?
Le but ici, c'est de réagir sur le fait que les sagas sont super à la mode. On parle de Harry Potter, de Star Wars, de Twilight, de Game of Thrones.
Twilight.
Et le fait que toutes ces sagas sont extrêmement à la mode pour elles-mêmes, est-ce qu'on peut pas s'amuser nous aussi à créer une saga, mais ce serait peut-être plus pertinent de sentir plus des sentiers battus. C'est un pur travail de créativité ici. Mais on sait que c'est un peu ton dada. Est-ce que tu pourrais nous inventer une saga de jeux vidéo, de séries télé, de films?
Ça aurait été un bon sujet pour Sylvain, je pense.
Ah, je sais pas. Écoute, on verra.
Est-ce que toi, tu vas devoir spoiler un de tes futurs projets?
Non, le deuxième.
Deuxième sujet.
Le jeu vidéo, cet art anonyme.
Là, on est plus dans le débat. On revient sur le jeu vidéo qui est le seul art parmi les autres où le contenu et la technologie passent sont les superstars avant les gens qui la font.
Ouais.
Aujourd'hui, demande au grand public qui a créé Mario, demande au grand public qui est le papa de GTA ou de Lara Croft, personne ne connaît. Par contre, on sait qui sont les acteurs de Star Wars ou le réalisateur d'Inception. Pourquoi le jeu vidéo, qui est un art numérique qui est extrêmement ouvert, est aussi anonyme? Est-ce que c'est parce que c'est une volonté des éditeurs d'un peu écraser les créatifs? Est-ce que c'est surtout peut-être les gens qui travaillent dans le jeu vidéo qui, eux, ont cassé le star system parce qu'ils s'en foutent, tout simplement? On a un mec qui nous explique ça.
Alors, le deuxième sujet, parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes à dire.
D'accord, ok. Jeu vidéo, un des deux. Oh, le bon game. Gros suspect. Troisième personne à passer, Mélissa. Mélissa qui fait genre, ah bon, c'est moi? T'es là pour ça, Mélissa. Alors, Mélissa, je vais t'écouter tes deux sujets. Extrêmement facile. Non, je déconne. Allez, Angie.
Un sujet jeu vidéo.
L'email est dépassé, mais peut-on s'en passer?
C'est une private joke, studio 404. En fait.
Voilà. Donc, okay. On revient aussi sur une de tes obsessions de l'organisation et des moyens de communiquer mieux.
Ok.
Se rend compte, et même à travers 404 en atteinte, que le mail, c'est, pour plein de choses, c'est un peu le fax de l'an 2000, c'est devenu un gros bordel. C'est...
Sachez que l'âme est pour les groupes privés Facebook.
Voilà.
C'est tellement plus innovant.
Est-ce qu'il y a du Facebook? Est-ce qu'il y a du
Facebook?
Est-ce qu'il y a aussi des nouvelles startups? Enfin, plein de choses. Est-ce qu'on peut se passer de l'email et passer un truc qui est plus moderne? Parce que l'email, quand même, existe depuis maintenant 30 piges. Ça n'a pas bougé dans iota depuis 30 ans. Et pourtant, tout le monde reste dessus. Un peu comme voilà, des entreprises en demandent encore envoyer des fax. Est-ce qu'on peut passer au-delà?
Ok.
Sujet numéro 2, Angie.
Les marathons de séries télé, gourmandise ou boulimie?
Ah, bon alors,
il y a une personne à côté de moi qui a l'air très intéressée par ce sujet.
Alors ici, on parle du nouveau langage et de la nouvelle structure des séries par rapport à notre manière de les consommer. C'est-à-dire que effectivement,
House of Cards.
Exactement. Avant, regarder les séries de manière extrêmement linéaire et ponctuelle. C'était quand ta télé les diffusait, tu la regardais. Aujourd'hui, avec le piratage, puis certaines entreprises comme Netflix qui ont copié le langage du piratage, on regarde ça de manière beaucoup plus groupée. Et on se rend compte aussi qu'il y a des séries qu'on ne peut plus regarder parce que regarder un Lost ou un 24 heures à la suite, ça devient absolument indigeste. Est-ce qu'il y a une nouvelle manière peut-être d'écrire ou de consommer ou de proposer des séries pour nous, ou même pour nous, de peut-être de se limiter et de revenir à quelque chose de plus... de plus mesurer pour pas se retrouver avec 24 cliffhangers en une soirée.
Ouais, ce qui était le cas dans House of Cards, sans spoiler.
Exactement.
Je pense.
Les mecs ou les séries?
Les séries.
Ok. Il y a un gros lobby à côté.
Non, mais l'email, en plus, on n'aurait pas eu grand chose à dire, mais ça m'intéresse aussi.
D'accord, ok. D'accord. Donc, les séries pour Mélissa. Et il nous reste Sylvain.
Oui.
Elle est où ta casquette, Sylvain?
Je l'ai posée derrière parce que c'est pas très poli.
Du soleil, hein.
Une casquette, avoir
ça,
un chapeau.
Ça faisait vraiment créa junior.
Ouais, ah, ouais, je sais, mais j'essaye de rajeunir un petit peu mon physique en ce moment.
Alors, Sylvain, Angie a deux sujets pour toi.
J'imagine, oui.
Les grands changements se passent. Notre enthousiasme trépasse.
Ah, bah on dit rien d'autre. Non, je déconne.
Non, mais j'aime bien.
Là, on parle de l'ensemble de tous les progrès qu'il y a, technologiques et aussi de société, et le fait qu'on se plaint encore que le futur de demain, il n'est pas arrivé, alors qu'en fait, il y a des choses complètement folles. On est en train de parler d'immortalité, on est en train de parler d'organes fantômes, on est en train de parler de réalité virtuelle, on est en train de parler de plein de choses. Et en fait, on se rend compte que les gens, aujourd'hui, ils ont... le savoir absolu au creux de la main, ils ont des vues satellites à gogo, ils peuvent faire des choses complètement folles et qu'en fait, finalement, ça enthousiasme personne. Est-ce que trop de progrès, ou est-ce qu'on est devenu habitué au progrès, ou est-ce qu'on a perdu notre âme d'enfant? C'est toi?
Ok.
Ok.
La drone de génération.
Drone de génération. Je voulais faire un jeu de mots avec génération Y pour te faire saisir.
Mais...
bon, on a gardé la drone de génération parce qu'on en parle tous, il y en a partout. Ça coûte pas cher, ça va être utilitaire, ça va être militaire, ça va être du jeu. Est-ce qu'on peut vivre demain avec une société où ça bourdonne dans tous les sens? Il y en aura absolument partout, de toutes les tailles, des microscopiques, des énormes, etc. Est-ce que c'est une technologie cool? Ou est-ce qu'on peut faire des raccourcis faciles avec le côté Big Brother, Skynet et tout ça? Sylvain.
C'est très très compliqué, les deux sujets m'intéressent énormément. Je finis de prendre des notes.
T'es en train de faire un flowchart pour savoir ce que tu dois choisir comme sujet?
Exactement.
Des mots plus compliqués avec le
Avec le premier, ouais. Tu pourrais te placer des mots qui n'existent pas, c'est ça?
Alors voilà. Le premier, on rappelle. Le premier, c'est est-ce qu'on est un peu blasé de tous les progrès qu'on a et qu'on se rend même pas compte de ce qui se passe? Parce qu'on attend toujours à des progrès fous. Et le deuxième, c'est est-ce qu'on va vivre avec des drones et est-ce que ça va être cool?
Je vais prendre le premier sujet, là.
Il fait très bien, ça fait très Jeopardy. Les drones pour 400. D'accord. Donc, premier sujet. Très bien. Donc, si on résume, Das, t'as pris quoi comme sujet, alors?
Alors,
j'ai pris le sujet sur la technologie qui
la c'est fin pas. De la technologie.
Voilà, c'est ça.
La fin de la technologie pour la technologie. Fibre.
Le jeu vidéo est-il un art anonyme?
Tout à fait. Mélissa.
Marathon, série, gourmandise ou quelque chose.
Boulimie. Te fais pas vomir toutes ces séries. Sylvain.
Les grands changements se passent et notre enthousiasme
trépasse.
Ok.
C'est bien, ça a l'air simple comme sujet, hein, pour 15 minutes.
15 minutes.
Ok, donc vous avez 15 minutes maintenant pour travailler ces sujets. On peut les encourager, les applaudir, nos chroniqueurs.
Merci.
Les verts.
On peut éventuellement avoir nos équipes aussi, quand même.
Comment?
Les équipes.
Alors, les équipes, l'équipe qui a des bâtonnets.
Les verts, et s'il y a quelques jaunes?
Je suis bleu.
Voilà.
Je suis seule.
Bleu, Mélissa.
Je suis orange.
Je pense que tout le monde va tricher.
Orange, c'est Daz. Vert, c'est Fibre. Et rose, c'est Sylvain.
Moi, je prends tout ce qui reste.
Voilà. Et là, c'est le bordel. Ceux qui veulent aller bosser.
Alors, si vous avez des violets, je prends aussi. Et on va par là.
Les oranges, on se met dans l'angle là-bas.
C'est bien, Angie, comme émission. T'as vu, on en fout partout.
Ouais. Et là, on est tout seul, là, tout à coup.
On laisse le micro, là, je présume.
Tu nous laisses le micro. Ah oui, alors, attendez, redonnez-moi les petits micros, là. Fibre, Sylvain. Tu restes avec moi, Angie, ou pas?
L'âme, je ne te vois pas, je ne t'entends pas. Est-ce que tu veux que je coupe mon micro? Est-ce que
non, j'ai besoin que tu me ramènes le micro.
Ah, il faut que je te le ramène, j'arrive.
Ok. Donc, voilà, nos chroniqueurs, sont partis avec leur sujet. On a demandé à des gens du public de venir discuter avec nous. Alors, pas forcément de nous faire des chroniques, mais de venir discuter avec nous juste en tête à tête. On a 3-4 personnes qui vont venir. Tranquillement, de sujets qui leur tiennent à cœur. Donc, ça peut être des coups de gueule, ça peut être des coups de cœur. Des choses qui vont te faire réagir, Andy. En tout cas, je vais les appeler. Alors, j'en ai une ici. Hop. Tiens, je te passe le micro. Tac, il y en a deux. Et je crois qu'il y avait une troisième personne qui était là-bas. Je ne sais pas si on peut l'appeler ou si elle est partie sur ces sujets. On va voir après. En tout cas. Alors, le but du jeu, de ce début d'émission, c'est en fait, on invite des gens. Donc, du coup, ça peut être des gens qu'on invite ou du public pur et dur. Et donc, du coup, ça va être vous deux. On va tenir la baraque. Pour venir de parler de sujets vraiment libres. si vous êtes debout et prenez les meilleures places, hein, maintenant vous êtes peinards. Sauf les. Voilà. Peut-être pas les places des chroniqueurs, mais allez-y, venez vous asseoir. Parce qu'il y en a qui sont malins parce qu'ils ne travaillent pas sur les chroniques et ils ne travaillent pas sur les. Alors, juste, on va se présenter. Du coup, bonjour, on ne se connaît pas. C'est pas truqué.
On ne se connaît pas. On s'est vu la dernière fois.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
C'était très bien. Alors, moi, je m'appelle Rémi. Là, j'ai mon Twitter. Et je suis graphiste. Un bon vieux graphiste du papier qui sent la quadrichromie quand il rentre chez lui, tout ça.
Un graphiste print.
Voilà.
Donc avec des termes barbares, c'est ça? Quadrichromie.
Alors, il faut dire, j'en discutais il n'y a pas très longtemps sur Twitter, au moins le print ça marche tout le temps.
D'accord.
Voilà.
Donc
c'est-à-dire que, voilà, c'est. Alors oui, il faut choisir le papier, mais voilà, ça marche tout le temps.
Très bien.
Les recettes fonctionnent.
Ok, Rémi. Et toi, donc en face, bah, l'inverse, si j'ai bien compris, parce que tu es développeur, tu te présentes un petit peu.
Alors ouais, je suis développeur. Alors
à la base, pas à parler fort parce que là, je pense qu'on
en j'étais, à la base, j'étais développeur dans le jeu vidéo, mais là en ce moment, je suis dans un labo de recherche Sony avec des départements langage, musique, tout ça. Mais
un labo de recherche, ouais. C'est-à-dire.
Ben, on fait de la recherche fondamentale ou en pratique, par exemple. Là, je suis dans le département développement durable en français.
D'accord.
Et je m'occupe de, par exemple, faire du monitoring sur les PC, donc choper les informations, la température du CPU, la charge CPU, etc., etc., pour tenter de faire des économies dessus, en fait.
D'accord.
De savoir quelle charge. Hein, bref.
Des économies, c'est d'énergie, expliqué, des choses comme ça.
Ouais.
Ok, très bien.
En gros, c'est ça.
Alors, qui commence? Tu voulais nous parler de quelque chose, toi, Rémi, ou pas? Vas-y.
Ouais, bah en fait, ça tombe vachement bien parce que j'avais justement un message à envoyer à la communauté des développeurs.
Je vous emmerde.
Vive le
Alors, on vous écoute. Non, non. Alors, je vais juste resituer très rapidement. Ouais. Effectivement, je fais du print. Et puis, un jour, j'ai une cliente qui m'a dit: est-ce que tu peux mettre mon logo dans mes mails? Alors,
tu l'as envoyé bouler ou.
Ouais.
Hein? Tu l'as envoyé bouler ou t'as accepté?
Alors, j'ai dit, ben, je vais regarder comment on fait. C'est l'avantage, c'est une bonne cliente, on peut vraiment discuter et vraiment se dire les choses. Et j'ai fini par comprendre que je savais pas du tout, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, je peux lui mettre le logo, mais non, ça va tomber en piège jointe.
Ouais.
Il faut mettre des balises HTML. Enfin bref, ouais. Faire un mailing.
C'était pas, donc, c'est pas ton truc.
Mais, ben non, mais je sais pas, en fait. C'est, donc je cherche. Et puis je cherche, et puis je trouve pas. Et puis je vais sur un forum, puis on me parle, mais je comprends pas.
Okay.
Et en fait, il y a un super mouvement, d'ailleurs, Fibre s'en est fait l'écho il n'y a pas longtemps.
Ouais.
Un super mouvement de tout le monde doit apprendre à coder. Le code, c'est
oui,
cool.
Tout à fait,
le code, c'est important parce que tout ce que vous faites sur le net, c'est du code.
Donc là, tu as l'impression de ne pas avoir appris l'anglais, en fait, c'est ça?
En fait, je pense qu'il y a juste quelque chose à trouver entre un truc comme Codecademy, par exemple.
Ouais.
Qui est pas mal foutu, qui est assez rigolo.
On rappelle que c'est un site pour apprendre à coder sur Internet gratuitement.
Voilà. Et puis le tutoriel de base d'informatique qui ressemble à ces tutoriels de dessin où on vous explique comment dessiner un animal. Faites d'abord deux ronds et ensuite dessiner le reste de l'animal.
D'accord, ouais.
Voilà.
Le fameux gag du.
Voilà.
Ouais. Et donc là, du coup, t'es quelqu'un qui est frustré par ça, en fait?
Alors, je suis frustré, non. C'est un vrai défi, c'est rigolo, parce que professionnellement, bah, ça commence à m'intéresser. On commence à me demander, tu vas pas me faire un site en plus
Donc voilà. Là, tu as appris à coder, du coup.
Alors, j'apprends à coder, ouais.
D'accord.
J'apprends à coder, bon, HTML, CSS, d'accord, c'est sympa, mais en fait, ce qu'ils veulent, les gens, c'est des trucs qui bougent, c'est une boutique en ligne.
Ouais.
Ok, une boutique en ligne.
E-commerce,
facile.
JavaScript,
voilà,
HTML,
trop facile. Prends, je peux citer des marques, prends PrestaShop, trop facile. Tu regardes dans la doc, tout est mis. Ouais.
Et donc toi, t'es là, d'accord, genre, voilà. Charabia devant toi et tout.
Voilà, donc c'est pour ça que j'étais, enfin, assez content de dire à un développeur récemment que pour avoir un beau noir en impression quadri, il faut mettre d'autres couleurs que du noir. Voilà.
Ah, c'est vrai?
Ouais.
Ah, c'est marrant, ça. Et du coup.
Mais ton coup de gueule, c'est quoi? C'est que c'est pas assez simple?
C'est pas que c'est pas assez simple. En fait, c'est soit trop simple,
soit
complètement habitable.
Ah, mais c'est très dur de faire le juste milieu.
Ah, non, mais c'est pour ça qu'il y a un vrai travail.
Si c'est trop simple, ça veut dire que tu vas aller au fond des choses. Et donc, ça devient tout de suite compliqué.
Il faut aussi dire qu'il y a plusieurs, langages de programmation.
Alors, il y a plusieurs langages de programmation qui servent à des choses différentes, mais en fait, ils sont tous essentiels. C'est-à-dire
pour, pour faire du web, par exemple, il faut maîtriser quoi ? Le HTML, le PHP,
Et le JavaScript. Alors, le PHP, ça dépend. Du JavaScript, si tu fais un jeu, t'as pas besoin de PHP a priori, sauf si tu veux commencer à envoyer les scores pour avoir un leaderboard mondial, tout ça. Mais seulement pour envoyer des données du JavaScript en PHP, il faut utiliser Ajax. Et franchement, à part un produit d'entretien, je ne sais pas ce que c'est. Alors, oui, la doc, elle est là.
D'accord.
Voilà. En fait, il y a un super mouvement et, les développeurs sont pleins de bonnes intentions.
Mais j'ai envie de dire que le problème, c'est la base. C'est que là, t'as quel âge ?
J'ai 36 ans.
Attention, le débat jeunisme.
J'ai envie de dire que il faudrait apprendre tout ça au collège, au lycée.
Oui, mais le truc, c'est que aujourd'hui, personne n'apprend à coder à l'école. C'est pas du tout quasiment dans le cursus.
Devrait, parce qu'il y a 30 ans, ça l'était. J'ai rencontré un maître de stage qui avait 35 ans et quand il était en primaire, on lui apprenait un langage de programmation.
Oui, c'est vrai qu'en primaire, on apprenait un langage.
Programmer des petits robots pour qu'ils avancent et qu'ils s'arrêtent.
Toi, tu as fait des études supérieures pour apprendre à programmer ou c'est un truc qui t'a commencé de manière autodidacte?
Alors, j'avais un petit peu un profil geek, donc je chantais que l'informatique, c'était dans ça qu'il fallait aller. Mais à la base, j'avais juste été surpris par Excel.
Par quoi ?
Excel, parce qu'on pouvait vraiment faire plein de choses. Pour moi, j'étais vraiment fou quand je voyais que je tapais 1, 2, 3, que je sélectionnais tout et que ça continuait à faire 4, 5, 6, 7 sans que je lui ai dit quoi que ce soit. Enfin,
c'est tous les scripts et la programmation.
Plein de fonctions qui sont là, qui étaient vachement cool.
Donc là, tu viens de faire une chronique sur ton amour pour Excel.
Non,
du tout. Classe,
tout.
Hein. Franchement, ce serait vraiment la classe internationale.
Du tout. Et donc, ensuite, j'ai fait 2 ans d'informatique. Et puis là, on a tout appris réseau, base de données, développement, plein de langages, Java, JavaScript.
Mais donc, t'as commencé assez jeune, tout ça, quand même.
18 ans, enfin, juste post-bac.
Donc, toi, t'as quel âge ? T'es comme moi, t'es un vieux.
J'ai 36 ans.
Ouais, on est des vieux, nous.
Ouais.
C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus dur.
Un pote m'a rappelé il n'y a pas longtemps que quand on lançait Windows, les premières fois qu'on a lancé Windows, il fallait taper win.exe dans DOS.
Ouais, tout à fait.
Et ça m'a fait un drôle de choc quand même. Et je me suis dit, quoi, j'ai peut-être loupé quelque chose à un moment.
Ah oui.
Quand j'ai vu Windows 3.11 qui se bootait tout seul.
Ouais.
Et à ce moment-là, je me suis dit, ah super, on peut oublier la ligne de commande.
Bah, alors, ça va être une des parties de la chronique de DAS qui est effectivement la technologie. Pour avancer, elle s'est aussi rendue presque invisible. Donc, on a eu des interfaces graphiques, des boutons à la place des lignes de commande.
Je suis d'accord que c'est important, mais pour moi, en termes de pédagogie du code, une avancée majeure, c'est le moment où les éditeurs de texte ont commencé à mettre en couleur les fonctions, les balises. Voilà.
D'accord.
Avant ça, il n'y avait pas de couleur.
Ouais.
Et c'est con, mais pour un novice, c'est un petit détail. Tout de suite, on comprend la page. Maintenant, je comprends le code source d'une page quand je le lis. Je ne sais pas trop ce que ça fait, mais enfin, je vois à peu près ce qui est quoi.
D'accord. Alors juste avant de continuer, on a un troisième chroniqueur.
Oui, on va dire ça.
Bon, tu remplaces Sylvain Palais, il était nul de toute façon.
Tout à fait.
Voilà, c'est son enfant. Mélissa, Daz, Sylvain. Bonjour. Alors, présente-toi du coup.
Oui. Alors moi, je m'appelle Aurélien. J'étais bienvenu la dernière.
À la première, ouais.
Donc moi, j'ai 19 ans et je suis étudiant dans une école de l'internet. Donc ça tombe bien. Éthique, un peu de pub. Et voilà, donc là le débat, ça m'intéresse parce que justement moi je suis confronté aux deux choses, je fais et du développement et du design dans mon école entre autres, et également du marketing. En fait, on aborde vraiment les trois composantes qui constituent le web actuellement, et donc effectivement on constate qu'en fait à mon sens vraiment l'enjeu majeur quand on arrive dans une école comme ça et quand on veut devenir un professionnel sur le web, c'est d'être capable rapidement de changer en fait d'état d'esprit, étant donné que je trouve que le designer n'a pas du tout la même conception que le développeur. Et donc par exemple là tu disais que c'était dur d'aborder en fait l'austérité, on va dire, un peu des langages de programmation, ou peut-être la doc en tout cas qui est un peu obscure, on va dire.
Pour quelqu'un qui est comme moi, je suis comme Rémi, je suis novice. Quand tu commences à faire 2-3 balais, c'est rigolo, mais effectivement quand tu commences à te plonger dans le truc, c'est dru quand même, hein.
Ouais, on est d'accord. Enfin, je trouve.
Non, c'est vrai.
Mais voilà, en fait, c'est ça, c'est aussi, je pense, une étape à passer. Comme tout, la première fois, il faut comprendre un peu l'esprit en fait de la chose, et un langage, ça a des codes, etc. Et justement, le code a des codes, on va dire.
Est-ce que toi, tu rejoins son avis, tu es pour le fait de faire en sorte que la langue vivante 1, la LV1 ou la LV2, ce soit le code en fait. Enfin, le code ou les codes. Au moins une initiation jeune
pour ne pas qu'effectivement, quand on est dans une vie d'adulte où t'es peut-être moins apte ou t'as peut-être moins envie d'apprendre, tu te retrouves à recommencer de zéro quelque chose. Est-ce que c'est considéré, est-ce qu'on peut considérer ça comme une langue vivante d'une certaine manière?
Ça me paraît un peu étrange dans le sens où la langue vivante actuellement c'est fait pour communiquer avec des humains. Je pense pas que le code soit fait pour ça. C'est plus fait pour communiquer avec des machines, en tout cas pour le moment.
Ouais.
Et donc ça n'a pas la même fonction. Je mettrais plus ça comme une langue annexe ou une composante technologique dans un cursus.
Genre le nouveau latin. Genre.
Bah ouais, voilà, plus ça. Ou je sais pas, ou voilà une filière les aventuriers.
Ça pourrait être un cours d'art plastique. Enfin.
Bah ouais, pour moi c'est ça.
Créatif. Alors c'est vraiment, c'est vachement créatif.
Juste, je vous arrête deux secondes. Pour les chroniqueurs, il vous reste 3 minutes. Je répète, pour les chroniqueurs, il vous reste 3 minutes. Ça passe vite, hein. Enfin, même ça passe très vite entre nous, du coup.
Mon coup de gueule.
Non mais ça passe très vite. D'accord. Dis-nous du coup de quoi tu voulais parler.
Alors ouais, ça va être short, mais en gros, je trouve que les gens ne sont pas assez sensibilisés à la valeur de leurs informations, aux informations qu'ils laissent sur Internet.
Là on parle des gens qui postent plein de choses.
Leurs informations vraiment personnelles pour le coup. Oui, mais ça comprend ça. Par exemple.
C'est-à-dire que tu penses que les gens sont irresponsables ou ils s'en rendent pas compte en fait?
Non, ils sont, ouais, ils ont juste pas conscience.
D'accord.
Par exemple, je parlais avec un ami du rachat de WhatsApp
ouais.
par Facebook à 16 milliards. Et lui, dans sa tête, il pensait que c'était juste un logiciel génial, tellement bien qu'il valait 16 milliards.
Bah.
Sauf qu'en fait, non. Ce qui coûte 16 milliards, c'est les clients.
Ouais,
et la base de données, les relations entre elles, enfin, c'est le big data quoi. C'est...
Bien sûr. Mais est-ce que justement ces gens-là n'avaient pas certifié que justement ils gardaient pas de trucs, pas d'informations, c'était bisounours, c'était très cool quoi.
Alors peut-être, mais je pense pas que les gens ont pas du tout conscience que cliquer sur des choses, s'inscrire à un concours pour gagner une PlayStation 3 et donner son adresse.
Bien sûr.
C'est pas gratuit.
Enfin, oui, bien sûr.
À partir du moment où c'est gratuit, c'est qu'on est le produit.
Ah, et donc, le fameux.
Bah oui, non, mais c'est vrai.
C'est vrai.
Que ce soit sur Gmail, là, il y a une banque en Belgique qui a dit haut et fort qu'elle allait vendre ses données, mais pas les données évidemment des cartes bancaires, mais les données du lieu où sont effectués les retraits de cartes bancaires, ou alors où est-ce que t'as payé pour le resto et pour se faire juste un petit peu plus de blé, quoi.
Et toi, tu dis les gens s'en rendent pas compte, mais est-ce que t'es contre ou est-ce que tu t'en fous? Il faut juste pour toi être conscient, ou est-ce que tu dis c'est
dangereux? Alors, pour l'instant, peut-être que ça change pas vraiment nos vies, mais à terme, il y aura forcément des dérives, parce qu'on va nous cloisonner à ce qu'on fait déjà. S'il y a 80% de gens qui achètent là-bas, je sais pas, on va nous faire des pubs pour là où les gens ont acheté, du coup les 20% vont dégager, etc. Ou simplement, là il y a des dérives qui existent déjà. C'est par exemple quand on regarde un billet d'avion qui coûte 500 € et que le lendemain on y retourne, il coûte 505 €.
Oui.
Ben c'est parce que soit les gens.
5 minutes plus tard, oui. Il coûte 505 €.
C'est parce qu'il y a eu plusieurs personnes peut-être qui ont cliqué sur le lien et donc il y a eu une demande et donc le prix a augmenté.
Est-ce que ça vous dérange de laisser de l'information sur le net? Il y a quelqu'un qui disait un truc, qui disait. Notamment sur les ados, ils disent ils font autant de conneries que tout le monde, sauf qu'aujourd'hui ils le mettent sur internet. Mais globalement, est-ce que ça a changé votre vie, vous, ou est-ce que vous êtes plutôt pro internet plaque fermée, etc., ou vous en foutez? À un moment, c'est une sorte de deal que vous avez passé avec les marques.
Alors moi, j'aimerais bien. Non,
juste avant que tu répondes, il vous reste une minute. Une minute, cher chroniqueur. C'est bon.
Alors pour ça, pour cette problématique là, il y a un projet vachement bien qui s'appelle Indie Webcamp.
Indie Webcamp.
Ouais, qui est pas du tout accessible au grand public pour le moment. C'est-à-dire que pour savoir ce qui se passe, il faut être sur le canal IRC.
D'accord. Ah oui, à l'ancienne.
Ah oui, non mais voilà. Non mais c'est
canal IRC. Ouais, mais au moins c'est sûr. Un protocole de chat qui est vraiment vieux comme l'internet, quoi.
Voilà. Donc du coup, et le seul truc qui manque à ce type de projet pour vraiment décoller et vraiment se faire connaître, bah c'est justement de la com accessible au grand public. Mais je pense que ça, ce genre d'initiative, c'est vraiment hyper important. Et à terme, je pense que ce serait pas mal, c'est qu'on ait tous notre petite boîte. Et je pense que d'ici 15 ans, le gars qui sort une petite boîte qui dit voilà, vous avez un serveur, c'est chez vous, c'est à vous, moi j'y touche pas.
Ouais.
Ok, il y a de la maintenance qui se fait. Vous branchez ça sur votre box, et là, vos données, elles sont là. Et après, il y a du petit logiciel de type. De type Facebook, Twitter, enfin voilà, vos réseaux sociaux, type diaspora, qui a fait un gros four parce que justement, c'est pas du tout accès grand public. Et là, ce type-là, c'est le roi du monde. Il va vendre ses boîtes à tout le monde.
Donc ce seront des anti-boîtes noires, quoi. Ah, c'est la fin. On finit sur. sur toi, Rémi. Désolé, parce que je sens que tu voulais dire des choses.
Non, non, ça va.
Non, je m'en fous de mes infos.
Non, mais en tout cas, en demande, en tout cas, ça me dérange pas. Et puis, en fait, les formulaires sont tous les mêmes finalement,
oui, pour remplir.
Et donc, au bout d'un moment, si on veut vraiment pas donner nos infos, c'est quand même possible de l'éviter. Rien nous empêche de mentir au final. On peut anticiper ce qu'on va nous demander après. Donc,
je suis d'accord, mais pour l'éviter, il faudrait savoir pourquoi il faut l'éviter.
Ah mais de toute façon ça tu sens jamais ce que j'ai trouvé sur
un joli texte de Navo.
Je vais rappeler les chroniqueurs. Revenez. Alors ils vont reprendre leur place du coup. Merci beaucoup en tout cas messieurs. Merci beaucoup d'être restés avec moi. On peut vous applaudir. C'est vrai qu'il y a pas mal de sujets, il y a pas mal de chroniques potentielles à faire avec tout ce dont on a parlé pendant l'intro. On va commencer la première chronique par Daz.
Oui.
T'as une fan dans le public ?
Oui. Elle est inconnue, je ne l'ai jamais vue avant.
Alors, première chronique, c'est Daz. Même si Mélissa n'a pas le droit de finir...
Tu vois, ça, c'est ce que j'avais dit. C'est qu'on connaît les tricheurs. Déjà, ils viennent à trois, déjà.
Ouais.
Et ensuite, ils continuent leur chronique pendant celle des copains. Et ça, c'est dégueulasse.
Moi, je faisais pareil. C'est quand le prof...
Daz déteste la mauvaise foi.
Il ramassait les copies.
C'est dégueulasse.
Posez les stylos. Bien. Levez les mains. Comme un top chef. Voilà. Plus le droit de toucher à sa chronique.
Alors, on n'est pas là pour rigoler. Il va falloir embrayer maintenant. Je vais demander aux imposteurs de se déposter, n'est-ce pas ?
Qui sont les imposteurs ?
Les gens qui n'ont pas à être assis sur ces formidables poufs carrés.
Ah oui, parce que là, on voudrait que l'équipe de Daz vienne ici.
Oui, l'équipe de Daz
va venir là.
L'équipe de... Ceux qui ont les...
Que mon équipe se
ton
déplace.
Ton possi.
Toi, tu fais partie de l'équipe de Daz ?
J'ai fait un rapide sondage. Il n'y a vraiment que des numéros 10 dans ma team.
Oh,
voilà.
On reviendra ensuite.
C'était la dédicace philosophique.
Daz, tu veux nous parler de la technologie,
tout à fait.
Et surtout de la disparition un peu de tout ce qui est chiffres, techno vraiment velu avec des circuits imprimés, des câbles, des machins et tout. La fin un peu des specs, tout ça pour plus d'expérience.
Pour plus d'expérience.
Est-ce que c'est bien ou pas surtout ?
Alors, je commencerai en disant que de tout temps,
les hommes...
L'homme a eu besoin de maîtriser son environnement. Non, en fait, ce postulat que tu poses, c'est un petit peu un rêve humide de pas mal de boîtes de technologie.
Un rêve humide.
Ok. Ouais, après, l'humidité, tu la trouves où tu veux, mais en tout cas, le rêve est assez humide.
Humide.
Boîtes, finalement, souhaitent travailler leur techno à tel point qu'elles deviennent complètement invisibles. Mm-hmm. Et je dirais que ça, finalement, rendre le truc complètement invisible, c'est un petit peu quand même générationnel.
C'est-à-dire
que plus le produit est adopté en masse, plus son fonctionnement devient quelconque.
D'accord.
Donc ça, c'est par exemple, sans vouloir spoiler une chronique future, c'est un petit peu le cas. C'est-à-dire que finalement, les gens, les premières personnes, les early adopters, comme on appelle ça dans le langage de Nietzsche.
Les primo-adoptants.
les early adopters étaient enthousiastes,
oui,
vis-à-vis du produit ou de la nouveauté technologique. Et puis finalement, plus elle se diffuse, plus elle est adoptée en masse et plus tout le monde s'en tape.
Donc en fait, les blasés, c'est pas les hipsters, mais c'est plutôt le grand public en fait.
Ouais, complètement.
D'accord.
Enfin, c'est ce vers quoi on tend. Après, d'accord, on a toujours des personnes un petit peu quand même focus sur les specs techniques. Et à ce propos, dans mon équipe, je demanderai donc aux gens qui connaissent exactement les caractéristiques techniques de leur smartphone de se lever, s'il vous plaît. Voilà. Donc voilà, ça tend à prouver que finalement les gens achètent des téléphones et se contre-tapent de ce qu'il y a à l'intérieur.
Et c'est bien ou pas du coup ?
Ben moi je suis.
On est un peu quitté ce discours technique.
Je trouve que c'est chouette. Je citerai un philosophe connu qui s'appelait Steve Jobs, si tu nous entends, pour qui justement la vraie bonne techno c'était celle qu'on voyait pas.
D'accord.
Et c'est pour ça que Steve Jobs a mis pas mal de temps avant de sortir certains produits, type l'iPhone ou l'iPad, qui était prévu à la base avant l'iPhone.
Ouais.
Parce que tant que pour lui la techno était pas au point, elle se voyait, et que il voulait pas, à la différence d'autres grandes marques comme Samsung que je déteste, qui elles n'hésitent pas à sortir des produits en fait en bêta pour leurs clients qui sont aussi bêta. Donc là, je parle par exemple de la Samsung Galaxy Gear, qui est quand même une hérésie totale, hein, une montre qu'on doit recharger à peu près toutes les
jours.
Là,
on parle d'une montre intelligente, une sorte de smartwatch. C'est
ça ? Oui, qui te donne la même heure en fait que ta montre bête. C'est juste qu'en plus, tu sais que tu as reçu des textos au cas où ton téléphone ne vibre pas. Bon, moi, c'est... Ah, ça. Donc, on a vraiment
deux philosophies.
Deux philosophies. Donc, il y a ceux qui vraiment se foutent complètement de ça. Donc là, c'est vraiment l'équipe Apple. Et puis, ceux qui font mine de s'en foutre, mais qui quand même sont vachement ancrés sur les anciens usages, à savoir tout benchmarker, tout comparer, tout
quantifier. Ceux qui mettent des stickers hologrammes sur tous les claviers des ordinateurs portables que tu vois à la FNAC.
Par exemple. Ouais.
T'aimes bien ça, ces stickers, ou t'aimes bien les enlever plutôt?
Les stickers, je les aime bien, moi je les garde. Parce que je fais un benchmark de stickers, en fait. Mais je reboucle avec mon sujet. Donc, si on reprend, par exemple, le monde de l'automobile, parce que ça a été soufflé par certains de membres de mon équipe très talentueux, c'est Thibaut, c'est ça? Je vais te demander d'expliquer ton point sur l'automobile, Thibaut. Et un micro, c'est formidable.
Fort aimable. L'automobile, au début du XXe siècle...
De tout temps.
De tout temps. Ouais. Pas en ce qui concerne l'automobile. C'était réservé une poignée de techos, les gros geeks mécaniques du XXe siècle. C'était à ceux à qui était destinée l'automobile, et c'était réservé à eux seuls. Et au fur et à mesure des progrès technologiques, donc du high-tech, on parle de ça, la technologie est devenue de moins en moins importante, à tel point qu'aujourd'hui, même si beaucoup d'entre nous, je suppose, conduisent une bagnole, combien d'entre nous savent changer une bougie ou réparer une courroie, voilà, finalement assez peu.
Déjà savoir à quoi sert une bougie.
Savoir à quoi sert une bougie, exactement, et on peut faire aussi le parallèle avec les gigahertz de nos téléphones.
Et est-ce que tu trouves ça... mieux ou moins bien qu'on s'en foute, ou que justement on sache pas ce que c'est?
Je trouve que c'est, on parle de démocratisation, en fait. Donc finalement, le fait que les produits réservés avant une poignée et maintenant à tous.
Pour moi, il y a un vrai. C'est pas que de la démocratisation. Il y a aussi une certaine forme d'hypocrisie. Et là, je prends l'exemple pour rester dans l'automobile de Audi quand ils ont sorti.
Tu vas taper sur tout le monde ce soir, toi.
Non, Audi, j'aime bien. C'est des Allemands, mais je les aime bien. Mais on est tous d'accord pour dire que objectivement, à part faire les niveaux d'une voiture, donc lave-glace, je parle même pas de liquide de refroidissement, parce que voilà. Donc lave-glace et huile, finalement, personne ne tripote un moteur. Donc Audi, quand ils ont sorti l'Audi A2 il y a quelques années déjà. Ils avaient très bien compris ça, et du coup, ils proposaient, en fait, de n'avoir accès que au compartiment d'huile et au compartiment de lave-glace. Ça a fait un scandale.
Tu peux pas ouvrir ta voiture?
Non, tu pouvais pas. Il fallait que t'ailles dans une concession pour ouvrir le... C'était un iPhone avant l'heure. Et finalement, même si tout le monde était d'accord avec ça, point de vue usage, personne ne l'a accepté. Alors que personne n'est mécanicien.
Oui, c'est voilà.
Vrai. Donc, en fait, il y a quand même un côté hypocrite, c'est-à-dire que même si la technologie s'efface, il faut qu'on ait quand même l'impression d'avoir le contrôle. Et pour ça, le marketing, en fait, l'a super bien compris, puisque je m'adresse encore une fois à mon équipe. Je sais de sources sûres que comparer les fiches techniques des produits reste quand même très, très, très important dans l'acte d'achat. Donc là, je m'adresse,
gens, quand même,
je m'adresse aux gens qui, bien que n'y connaissant que dalle, compare bien les specs processeurs à la virgule près, la taille de la RAM, le type de RAM, si c'est de la DDR3, de la DDR4, de la DDR5. Est-ce qu'il y en a dans mon équipe?
Oui.
Voilà. Et tous ces gens, de manière assez évidente, ne sont pas des nerds.
C'est vrai, c'est vrai.
Hein, voilà. Donc c'est bien que quelque part, il y a cette notion un peu de concours d'organes érectiles, parce que j'ai dit que je ne dirais pas bit dans cette chronique.
Si, dans le langage de Nietzsche, bit.
Bit, un concours de bit. Et finalement, même si la technologie s'efface, elle doit quand même flatter le consommateur en lui faisant comprendre qu'il sait de quoi il parle. Donc c'est complètement, là on est vraiment complètement dans l'hypocrisie qui coïncide un petit peu aussi avec la génération internet, avec Wikipédia, avec le savoir absolu, et que finalement personne connaît réellement un sujet à fond. On connaît tous plein de sujets très partiellement, et les méthodes de conso finalement adoptent ce point de vue là. Donc on s'enorgueillit de se dire ouais, mon smartphone, c'est un Samsung Galaxy S14, c'est le même que le S13, qui était le même que le S12. Et il a un processeur quad-core à 3,2 GHz, water-coulé, autopump, tu vois. Et le mec dit ça parce qu'il l'a lu.
Mais qui sait pas.
Mais il sait pas ce que ça veut dire. Et pourquoi 4 cœurs dans un téléphone portable? Je pose la question ouvertement, parce que le téléphone portable, ok, on prend des vidéos, etc. Mais je veux dire, la fonction première reste quand même d'envoyer des textos. Donc, et éventuellement de téléphoner. Pourquoi cette surenchère, en fait? C'est ça la question. Moi, quand je vois que avec un ordinateur de 1998 qui était les premiers Pentium, je crois, qui était cadencé à 166 MHz. Enfin, c'était de la merde, mais j'arrivais à faire plein de trucs. Et que je vois que maintenant, pour juste ouvrir une vidéo, il me faut absolument un Core i7 à 3 GHz et octocore. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé?
Alors,
en bonus quand même, j'ai dans mon équipe de winners une personne qui a overclocké son téléphone.
Ah, c'est vrai.
Donc overclocking, hein, je parle pour les gens qui sont pas très au fait de ça, c'est-à-dire les trois quarts des gens. Ça consiste en fait à augmenter la fréquence de son processeur pour le faire tourner plus vite. Voilà. Alors c'est très important dans l'informatique pour les vrais nerds qui aiment vraiment booster leur machine et la régler au max de ses capacités. C'est un peu plus stupide en mobilité, puisque bah, si le processeur tourne plus vite, il consomme plus d'énergie. S'il consomme plus d'énergie, bah, il y a moins d'autonomie. Donc, je veux sincèrement connaître les motivations de Denis pour ça.
Alors, vite, Denis, on finit sur toi, parce qu'évidemment, on a...
Bonsoir, je m'appelle Denis. J'ai overclocké mon téléphone.
Bonsoir, Denis.
Bonsoir, Denis.
Pourquoi t'as overclocké?
Non, la motivation, c'est que c'est une vieille bouse qui est plutôt lente, et c'est histoire de lui donner un peu d'air.
T'as overclocké ton téléphone, mec.
Puis, il a donc... Non, mais alors attention, il n'a pas répondu aux sirènes du marché qui lui proposent d'acheter un Samsung Galaxy S18. Il a overclocké un Galaxy S1. C'est un Samsung que t'as, je présume.
C'est un Samsung Nexus S.
Et voilà.
C'est QFD.
Ok, donc ouais, c'est... Alors, dans ce cas-là, je trouve ça intéressant.
Ah bah voilà, là, c'est intéressant. Ah, comme quoi, c'est pas...
Et niveau autonomie, alors, parce que si le téléphone est vieux... Non, mais là, on est dans le débat, ça y est.
Ah, d'accord.
Non, niveau autonomie, vu qu'il est pas tout le temps à la fréquence maxi, c'est pas très sensible.
Ah, en plus, c'est un overclocking dynamique. Ah, lui, il est...
Ah, c'est un professionnel.
Bon, on peut applaudir Dan et son équipe.
Merci. Merci à mon équipe. Ah. Hein.
Sylvain, Mélissa, Fibre, est-ce que vous connaissez la fréquence de vos processeurs? Est-ce que ça vous excite ou
Sylvain.
Absolument pas.
Non. Sylvain.
Oui,
je la connais.
Il est sensible au marketing.
Ça m'excite beaucoup. Faut d'ailleurs que j'aille faire un petit tour à Montgalet.
C'est vrai que c'est à Montgalet qu'on trouve les meilleures choses.
Sylvain, toi, t'es resté un amoureux du benchmark, des chiffres, des nouvelles technologies avec des noms marketing rallonges, etc.
Mais je pense que c'est plus une passion qu'une nécessité. Hein, t'as raison.
D'accord.
Enfin, je veux dire, c'est Thibaut qui dit ça, mais... si on a inventé le BEP mécanique, c'est pour que les mecs qui ont fait Bac+4, ils aient pas à mettre les mains dans le moteur.
Ouais.
Si on a inventé Barbès, c'est pour pas être obligé de remplacer la vitre de son smartphone. Si on a inventé Montgalet, c'est pour pas être obligé de monter son ordi tout seul aussi, quoi.
Ouais. Donc voilà. Toi, tu es plutôt... Par rapport à ça, t'es plutôt comment? Tu préfères que les gens soient très conscients des spécificités de leur machine et qu'ils comparent comme des malades, ou tu préfères qu'à un moment on s'en foute et que tant que ça marche, c'est bien?
Moi, je me mettrais entre les deux.
Oh, t'es relou.
Ah ouais, je sais, ouais. Je suis un peu le centrisme du nerd.
C'est totalement faux.
Non, mais faut pas que ce soit trop transparent non plus. Il faut qu'on sache ce qui rentre, ce qui sort et ce qui se passe un petit peu à l'intérieur.
La cible du marketing, c'est ça. Le faux expert.
J'adorais l'hypocrite que tu
définissais. Ah, ça y est, ça prend des doigts.
Quand la marque ou le constructeur dit, on sait que vous êtes des merdes, mais on va quand même vous faire croire que vous êtes intelligent. Ça,
oui.
J'adore. Je trouve ça parfait. Je trouve ça artistique même.
On a déjà parlé un peu de ça, et toi tu disais justement, tu fonctionnes avec une marque particulièrement nouvelle technologie, c'est Apple, et parce que tu disais justement, ça fonctionne.
Je suis pas hypocrite, c'est-à-dire que je me dis, je vais perdre du temps si je fais un benchmark,
ouais.
Donc je ne perds plus de temps, et la plupart des gens finalement ce qu'ils veulent, c'est, comme ils le disaient, c'est que ça marche, qu'ils appuient sur un bouton, et pourquoi Apple marche si bien? Parce qu'il n'y a ni antivirus à mettre à jour, ni rien du tout, t'appuies sur un bouton,
Mais qu'est-ce que c'est que cet amateurisme?
J'ai vu un film très intéressant qui s'appelle Her de Spike Jonze, que vous avez peut-être vu aussi,
non?
Et dans lequel la technologie est vraiment absolument pas apparente. Il n'y a pas de coque en plastique noir.
C'est vrai qu'on parle jamais de technologie dans le film.
Voilà. Vraiment, les ordinateurs sont dans des cages en bois et tout fonctionne parfaitement.
Je souhaite juste rétablir une vérité. S'il n'y a pas de virus sur macOS ou s'il n'y a pas beaucoup de virus sur macOS, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs sur macOS et que les pirates et les hackers aime juste cibler le plus grand nombre de personnes.
J'ai compris ce que je voulais dire.
Voilà. Non,
les gens veulent appuyer sur un bouton et que ça marche et c'est tout.
Oui, mais est-ce que
cette
posture-là, ça me rappelle un peu ton ancienne chronique de l'édition précédente sur le slow web. Est-ce que cette posture-là, à savoir j'appuie sur un bouton, ça marche, tu pourrais pas le faire par exemple avec un smartphone de marque Samsung? Pourquoi Apple?
Mais parce que sur ton Samsung qui fonctionne sur Android, tu peux tout... personnalisé. Moi, j'ai pas envie de me dire.
Mais tu peux aussi prendre la version stock. tu ne touches à rien.
Oui, mais tu sais que tu as la possibilité. Du coup, ça troll ton propre cerveau, quoi. Et du coup, tu dis, je peux faire plus et je le fais pas.
Du coup.
Alors, Sylvain, question.
Mac ou PC?
Fibre. Franck Godwin de Studio 404.
Moi, j'achète un PC chez Darty à 300 euros. Ah, je prends le moins cher.
Toi, t'es vraiment sale.
Et comme ça, je suis sûr que. Oui, en fait, je prends toujours le moins cher. Comme ça, si ça casse, je suis pas malheureux.
D'accord.
Et de toute façon, je fais du Word. Mais par contre, pour répondre à Daz, en fait, pour revenir au sujet principal qui n'est pas l'overclocking, mais la technologie doit-elle être disparaître ou, en disant, avoir un certain côté design pour qu'elle soit.
On n'a pas parlé de design populaire. Dans
oui,
dans
mais
l'objet.
Le minimalisme et
on n'a pas parlé de minimalisme.
Centrage vers l'utilitaire.
Tu les laisses tranquilles.
Non, mais c'est parce que le design a l'air technologique.
Oui, ce que je veux dire, c'est que on nous a gonflé avec les Palm Pilots et la réalité virtuelle. Parce que c'est un petit peu à l'heure actuelle, on en parle avec l'Oculus Rift, dans les années 90,
ouais.
C'était ultra ringard d'avoir un Palm Pilot, ça n'a pas du tout marché, et quand Apple il a sorti sa fameuse tablette, ça a marché à fond. Pourquoi ? Parce que ça faisait très bien sur la table et les gens qui venaient dans votre maison, ils disaient c'est un bel objet.
Donc le point de fibre aussi.
Et du coup,
je vais lui jeter mon micro au visage.
Non mais attendez, excusez-moi, les gens qui ont acheté massivement un iPad l'ont pas fait parce qu'il y avait un processeur à X gigahertz, parce que personne n'en a rien à branler, mais parce que c'était vachement bien. Et demain, l'Oculus Rift, va se planter parce que prédiction, ça va se planter parce que c'est parce que personne ne peut. Quoi ? Non mais parce que personne.
Parce que
c'est pas
là.
Un objet, c'est pas un bijou, c'est pas un truc qui va vous agrandir socialement. C'est un truc qui va vous faire kiffer deux heures. Après, vous allez avoir le mal de mer et c'est tout.
Pour la première fois dans ces émissions, un acte de violence est sur le point de se passer.
Et attendez, je tape du poing parce que voilà.
Alors, Daz pour finir.
Non, en fait, le point de vue de, enfin, le postulat de fibre, on le connaît. C'est que la technologie, c'est pour les azous et Apple ne vend que pour les gens qui veulent crâner en buvant un mocha latte au Starbucks. Cette posture m'exaspère.
Mais c'est la posture de Studio 404. Si t'es pas d'accord, va sur adwart.fr.
Je trouve, Fibre, que tu es très très injuste parce que je rappelle que le gros des ventes de ton jeu, c'est justement sur des plateformes Apple.
Oui.
Que tu méprises par ailleurs.
Mais c'est un jeu qui fait moins de 50 mégas.
Et
alors, mais ça veut dire que c'est pas un jeu qui dit, parlons pas du jeu, mais ça, c'est idiot d'en parler, mais c'est un jeu qui est léger, donc il peut marcher sur n'importe quelle plateforme. Et justement, l'intérêt, c'est que vous avez un million de beaux visuels, tout ça, etc.
On va s'éloigner du truc, mais pour terminer, ce que je dirais, c'est que simplement. Fibre Tigre, lui, pense qu'effectivement c'est plus du côté de la du
design,
du flambage, de crâner en fait avec un objet.
De la situation sociale.
Dans le cas de l'iPad, c'était surtout une utilisation complètement nouvelle d'un outil informatique, c'est-à-dire un truc qui a 10 heures d'autonomie avec un écran de bonne qualité.
Mais Microsoft, il est sorti des tonnes de tablettes obscures.
Mais ça pesait 5 kilos.
Mais voilà.
C'était inutilisable, une demi-heure d'autonomie.
Justement, technologie apparente. On est en plein dedans.
Non, technologie de merde. Là, par contre,
j'aurais juste, avant qu'on finisse, j'aurais juste une dernière chose.
Et là, on doit finir.
C'est la fin. Les étiquettes.
Ah, c'est toi, fils. Calme-toi.
Les étiquettes. Tout le monde dit oui, est-ce que 2 gigahertz, tout ça. Posez-vous la question, sur les étiquettes à la FNAC ou à Darty, est-ce qu'ils disent la vérité ? Moi, on n'en sait rien.
Mais si, tu fais un benchmark.
Mais tout le monde fait des benchmarks. Personne ne fait des benchmarks. Ça se trouve, vous achetez plus cher un produit qui n'est pas mieux.
Et, voilà. Et on s'en fout.
D'où acheter le moins cher.
On applaudit à Fibre. Je lis un tweet.
Je vais donc pirater le jeu de Fibre Tigre pour l'acheter moins cher. Voir l'acheter gratuit.
Non, mais pour finir, il y a un tweet qui est bien de Panji Drama qui dit, alors oui, on compare sur le moment, comme tu dis, mais une fois qu'on a le produit, il faut juste que ça marche. Donc c'est un peu entre les deux.
C'est
ce que je voulais dire depuis le début, on n'a même pas parlé des usages. On parle de la joliesse du truc, on parle
du truc.
Mais on parle pas des usages.
J'ai parlé, moi, de l'usage.
Et tant qu'on qu'on aura Google Maps qui marche pas et le GPS qui nous localise pas au bon endroit sur notre smartphone de merde, pour moi, la technologie, elle sera pas transparente.
C'est parce que t'es chez Samsung.
Exactement.
Alors Samsung, on voulait faire un partenariat avec vous, mais on en reparlera plus tard finalement. Allez, deuxième sujet du coup. Alors, je pense qu'il s'est bien chauffé.
Merci à mon équipe encore une fois.
Alors merci déjà, on peut applaudir encore l'équipe de Daz.
Bravo.
De s'être levé dignement pour dire oui, je veux retenir mon téléphone et de rester droit comme ça face à l'arrêté. Alors Fibre va appeler son équipe qui va venir nous rejoindre. Je vous rappelle que le sujet de Fibre était le jeu vidéo, cet art anonyme.
Guillaume,
où on va parler du fait que le jeu vidéo, la star du jeu vidéo, ce ne sont pas les acteurs, les game designers, etc. Mais ce sont plutôt la technologie ou les chiffres.
Eh bien non.
Allez Daz, tu laisses la place à Fibre.
Oui.
j'ai une personne ici qui s'appelle Alexia, qui joue pas du tout aux jeux vidéo.
D'accord.
Mais elle a joué à un jeu vidéo. Est-ce que tu peux me dire le nom de ce jeu vidéo?
Outer.
2048.
Ah, 2048.
Alors, qui a fait 2048?
Voilà.
Bien, c'était mon premier témoignage. Alors ensuite, j'en ai un beaucoup plus
c'était
amusant.
Ça, t'as négocié 2048 et c'était ça. Mais...
Ah, j'en ai un super, c'est Guillaume. Guillaume, toi, t'es fan d'un jeu, tu vas me dire ce jeu.
Counter-Strike.
Grand nom, Counter-Strike. Ouais. Alors, qui est le patron de la boîte qui a fait Counter-Strike?
Oh non.
Je ne sais pas.
Mais merde.
Attends.
Ouais, moi aussi, ça m'a fait pareil.
Je pense que très peu de monde sait qui est le patron de Valve.
Alors par contre, j'avais une jeune fille, hein, Poppy.
Oui.
C'est pas son vrai nom, hein, c'est son pseudo. Qui, elle, a saigné un jeu.
Ah, tu l'as saigné.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Skyrim.
Et elle a réussi à me dire...
Ah, t'as saigné Skyrim en plus.
Voilà. Oui. Et elle a réussi à me dire quelle société avait fait Skyrim.
Bethesda.
Ouais. Ouais,
alors déjà, on s'approche vers un non-anonymat ouais. Parce que, voilà, on commence à avoir... on n'a pas encore le nom, mais on a le nom de la boîte.
C'est comme si t'avais le film, c'est vrai que c'était Fox, 20th Century Fox qui avait fait le film, mais voilà.
Voilà, c'est ça. Alors, après, il y a quelqu'un qui s'appelle Sébastien, qui est en face de moi, si je peux lui passer un micro. Il m'a dit, oui, moi, je peux citer deux noms. Alors, il m'a cité
Frédéric Rénal
et
Michel Ancel.
Voilà, il me les a cités parce que ce sont des gens
qui sont français,
mais
ils sont chevaliers de l'ordre des arts
et des lettres. Voilà, c'est donc
tout comme Chaka Ponk.
Voilà, exactement.
Bravo.
Et Johnny Hallyday.
Ouais,
et voilà.
C'est vrai, ça.
Donc là, on est dans une notoriété qui est plutôt.
Je vais pas dire Chaka Ponk, j'ai cassé l'ambiance.
En voilà, qui est pas lié, on va dire, à l'art du jeu vidéo proprement dit, ou la création du jeu vidéo, mais plutôt la reconnaissance sociale par rapport à la TVA qui a fourni leur jeu. Voilà. Ouais. Donc,
dans ton équipe, personne ne connaît quasiment de gens qui ont fait des jeux vidéo,
voilà.
Même les jeux qu'ils aiment.
Mais alors, même, je vais dire. On peut citer des auteurs de romans ou de films.
Oui.
Et j'ai posé la question, et Louisiane va nous répondre par un petit mot. J'ai dit, mais si vous êtes en soirée et qu'il y a un mec qui, au lieu de parler cinéma, littérature, il parle jeux vidéo, est-ce que vous trouvez que c'est intéressant?
Non.
Alors, on refait-le?
Non.
Ah voilà.
Non, voilà.
On avait négocié ce nom.
Non, et en fait, voilà.
Carrément, donc c'est pas intéressant.
C'est pas un domaine de culture générale, tu vois. T'es juste un espèce de mec qui parle de jeux vidéo et pas quelqu'un qui parle d'un domaine culturel intéressant. Donc l'intérêt d'avoir une culture générale et de briller en société grâce à la connaissance des acteurs du jeu vidéo n'est pas très intéressante. Alors rajoutons à cela.
Oui.
Qui contribue à l'anonymat du jeu vidéo, que les quelques personnes du jeu vidéo qu'on connaît sont des gens assez détestables.
Ah bon ?
Bah, ils ont le melon.
Tu veux dire fibre tigre ?
Bah, moi, je commence à avoir un peu le melon, mais je veux dire, il y a des gens comme Jonathan Blow, Peter Molineux qui va faire quelque chose là, le 22 avril.
Qui connaît Jonathan Blow ici ? Levez la main.
Ah, quand même. Il y en a quelques-uns.
7-8. Ok, d'accord.
Voilà. Peter Molineux, qui est donc qui a créé Populous en 1989 et depuis il a créé plein de jeux. C'est quelqu'un qui a vraiment le méga melon et qui fait que des fausses promesses au marché.
Mais même s'il a le méga melon, qui connaît Peter Molineux ici ? Un peu plus demain quand même, mais pas la moitié, même pas le tiers.
Bon, oui, il y a David Cage récemment, chevalier de la Légion d'honneur. Bon, après c'est un peu discutable. Bon, ce sont des gens qui sont très.
Ne dérape pas, Fibre.
Voilà, qui sont un peu égocentrique et un petit peu... on n'a pas vraiment envie de les connaître, tu vois. C'est pas des gens, forcément, qui donnent humainement envie d'en connaître plus. Donc ensuite, là, je crois que c'est Marianne qui va me dire... parce qu'en fait, les jeux vidéo ne sont pas créés par des créateurs, mais par des boîtes, des sociétés,
d'accord,
qui comportent des milliers de personnes. Alors, par exemple, une société française qui s'appelle Ubi France. Rappelons que Ubi, c'est pour...
Ubisoft.
Ubisoft, excusez-moi. UBI, oui, c'est Union des Bretons Indépendants. Voilà.
Ça, c'est autre chose.
Voilà. Donc, ils ont combien de...
9200.
9200 salariés.
9200
chez Ubisoft.
Salariés.
Voilà. Donc,
pour toi, c'est une armée anonyme. Il y a, du coup...
Ah oui, c'est anonyme, d'autant plus que, par exemple, une des licences qu'ils ont, c'est Assassin's Creed. L'histoire n'est pas extraordinaire, mais rien qu'à l'histoire, ils ont 20 scénaristes. Donc, ce n'est pas une histoire créée par David McFarlane comme pour... à Malure, par exemple. Voilà. Mm-hmm. Donc c'est, y a une sorte de nivellement, voilà, qui empêche une multitude de gens.
Donc pour toi, le jeu vidéo, c'est surtout une sorte de bouillon technique et global et dont rien ne ressort, en fait.
Alors là, je donne des indices pour comprendre pourquoi il n'y a pas de star du jeu vidéo aujourd'hui. Et donc, par extension, alors c'est quelque chose d'un petit peu particulier, c'est que dans le jeu vidéo, on s'aperçoit, et 2048 en est un, qu'il y a beaucoup de clones. Parce que 2048 est un clone d'un jeu qui s'appelle Trees.
Oui.
Et en plus, un mauvais clone, et pourtant, le clone marche à fond, et donc Trees en pâtit. Et le clone, c'est quelque chose de complètement admis. Si demain on clone un jeu, c'est pas illégal. C'est quelque chose qui se fait, c'est une pratique. Et par extension, ça nie le droit d'auteur, donc l'existence d'un auteur. C'est-à-dire, non, je refuse de concevoir que l'auteur de Trees a une existence en tant qu'auteur. C'est pour ça que, joyeusement, je profite de son jeu et je fais même un logiciel qui permet de faire des copies de son jeu très facilement. Donc,
ça se retrouve moins dans les autres
Je veux dire, demain, si vous copiez un livre comme le Trees a été copié, vous êtes dans le plagiat, il y a des procès, vous passez dans les journaux. Donc c'est pour ça que ça fait du jeu vidéo un domaine artistique, alors c'est quelque chose qui est discutable à part, et c'est pour ça aussi que le nom des auteurs à l'heure actuelle n'est pas destiné à rester pour la postérité. Ensuite,
excusez-moi, ton fusil à
pompe. Oui, déjà blindé.
Dernier point. Ah oui, je voulais terminer alors par Étienne Perrin qui fait partie de, qui est dans notre équipe aujourd'hui et qui est auteur de jeux vidéo.
Ah bon, bonjour Étienne.
Voilà.
Bonjour.
Alors, je vais pas trop lui dire la parole parce que je vais interpréter ses mots. C'est simplement, mais tu vas me citer quelques exemples. Il me disait que des grands noms du jeu vidéo aujourd'hui, de grosses boîtes, sont en fait d'anciens indépendants. C'est ça? Ils étaient tout seuls.
C'est pas tant qu'ils étaient des anciens indépendants, c'est surtout que les grands noms que tu as cités, les Molineux, les machins comme ça, c'est des mecs qui viennent de très loin et ils ont commencé tout petits. Et là, t'as pas parlé des développeurs indépendants, mais tu vas sûrement en parler après. Y a quand même la notion d'auteur et d'auteurisme qui commence à apparaître chez les indépendants, mais elle n'est pas encore réellement assumée, même par les gens qui les font, les jeux. Ouais. Et par exemple, par toi, qui t'appelles Fibre Tigre, on connaît pas ton nom.
Oui, mais là, par extension, ce que je voulais dire, c'est que il y a quelques noms qu'on connaît, comme Hideo Kojima ou Molineux, donc sont que les seuls rares noms qu'on connaît.
Très connus des gamers.
Ouais, très connus des gamers uniquement. Mais même ceux-là, ce sont des personnes qui ont un culte de l'identité puisqu'ils viennent de la scène indépendante. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des gens qui viennent d'écoles de jeux vidéo, ils savent que ce seront des ouvriers du jeu vidéo et qui seront comme les maçons d'un bâtiment. Ils resteront anonymes. D'accord. Pour toujours.
Et c'est quoi ta position par rapport à ça? Est-ce que tu trouves que c'est bien, justement, de casser un peu le culte à l'ego, ou est-ce que tu trouves que c'est mal de presque, pas de dénigrer, mais de maintenir dans l'ombre des talents?
Alors, le problème, c'est que le culte à titre personnel, c'est quelque chose qui est sous les projecteurs. Donc le culte de l'ego est plutôt nocif parce que on voit les gens deviennent détestables, justement les gens sur lesquels on a le projecteur. Par contre, il est très important de connaître les grands classiques du jeu vidéo. Ça c'est de la vraie culture générale qu'il faut connaître et qu'il faut citer aujourd'hui parce que ça nous aide dans plein de domaines. Donc aujourd'hui les noms peuvent rester anonymes, mais leurs œuvres par contre méritent la postérité.
D'accord, très bien. Merci Fibre. En tout cas, on peut applaudir Fibre et son équipe.
Merci à vous.
J'aime bien parce que Fibre, quand c'est toi qui fais les chroniques, t'es très calme, très doux, et quand tu débats, tu casses des tables.
Passons donc au débat.
Voilà.
Oh là 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 là.
Un fusil extrêmement chargé.
Mélissa, notre caution geekette gameuse.
J'ai joué à 2048, j'ai même pas essayé d'arriver à 2048.
Mélissa, toi, tu nous as toujours dit que t'es pas du tout jeu vidéo, mais t'es extrêmement branché sur beaucoup d'autres formes d'art, que sont la BD, le cinéma et la télévision.
Qui sont des arts un petit peu en déliquescence.
Ah, tout de suite.
Non, tu verras, tu entendras notre chronique et tu comprendras que non.
Et tu poseras
un truc sur le slow quelque chose.
Ouais, je pense aussi, ouais.
Alors, Mélissa, avec un seul onglet.
Est-ce que tu trouves ça normal que le jeu vidéo soit étonnamment anonyme et qu'il y ait si peu de gens connus ou reconnus?
En tout cas, j'étais pas d'accord avec l'explication de comme ça fait pas cool de parler de jeux vidéo dans les dîners en ville. C'est anonyme, non. Enfin,
d'accord.
Et moi, si on parlait de jeux vidéo dans les soirées, ce qui m'est déjà arrivé, souvent j'ai les yeux qui pétillent.
C'est l'alcool.
Pas du tout.
Attends, on a passé des soirées à parler jeux vidéo et tu t'en allais discrètement.
Mais parce que vous en parliez avec des termes de nerd où je ne pouvais pas comprendre la discussion. D'accord. Moi, on a parlé de jeux vidéo comme si on parlait de cinéma.
Et c'était hyper intéressant parce qu'on montrait comment en fait le jeu vidéo allait plus loin que le cinéma, dans l'image, dans la créativité. Enfin, et là, ça devait être proprement intéressant.
On l'a dit au moins 12 fois à chaque fois qu'on se voit.
Non, mais quand vous discutez entre vous, vous discutez de jeux précisément. C'est des jeux que je ne connais même pas. Donc, qu'est-ce que tu veux, je ne peux pas rentrer dans la discussion.
Donc toi, tu es pour la reconnaissance de ces gens-là ?
Tout à fait. Enfin, je veux dire, c'est aussi bien de connaître le nom, de savoir pourquoi ils font ça, de quelle est leur créativité derrière, quelles sont leurs idées derrière. Et enfin, j'aimerais savoir ça, mais de fait, comme c'est pas ce dont vous parlez vous, j'en sais rien. Et en fait, je pense que ce serait la façon dont je pourrais m'y intéresser.
D'accord. Est-ce que tu penses, parce qu'il y a des voix qui disent aussi, justement, c'est quelque chose qui est collectif. Le Star System, c'est quelque chose qui appartient à une autre époque et à d'autres mœurs. Nous, on s'en fout. On s'en fout d'être reconnu pour un nom, on s'en fout d'avoir notre nom au-dessus du jeu.
Et après, je comprends qu'il y ait des créateurs de jeux qui n'aient pas envie de faire ça.
D'accord.
De se dire, oui, j'ai créé ce jeu-là, je ne sais pas si Fibre Tigre, derrière son jeu Out There, se vend comme ça. Mais je ne crois pas trop, en fait. Je n'ai pas l'impression que tu le fasses comme ça. Enfin, si, non, mais il le promeut via Fibre Tigre, mais quand tu joues à Out There, je ne pense pas que tu sois.
Non, mais je ne le promeux pas du tout, puisque je tweet ou je communique en français et que le marché français. Malheureusement, il est tout petit pour le monde du jeu vidéo.
On va pas attaquer un autre sujet, Fibre. Voilà, tu as dérapé sur la réalité
virtuelle. Non, mais c'est intéressant aussi pour dire. Non, mais en littérature, la France, c'est pas n'importe quoi. En cinéma, ça va. Mais en jeu vidéo, on est quand même assez petit. On a Ubisoft, qui est énorme. Mais en termes de marché, on n'est pas très.
Et c'est aussi la date de naissance de cette forme d'art qui est beaucoup plus jeune que tous les.
Qui est récent. Sylvain, qu'est-ce que t'en penses de tout ça?
Moi, je pense que vous avez tous un très gros problème.
Ah ouais?
Vous comparez le jeu vidéo et le cinéma. Pourquoi?
Non, on compare le jeu vidéo et toute forme d'art créative.
C'est pas comme si le jeu vidéo ressemblait absolument au cinéma avec des scènes cinématiques tout le temps et des plans cinématiques et voilà. Et que Ubisoft va sortir 6 films bientôt.
Le problème, Fibre.
Ouais. C'est toi.
C'est que le jeu vidéo, c'est un format hybride. C'est d'accord un film, quelque chose de très scénarisé, une forme de narration, mais c'est aussi un logiciel. Est-ce que tu connais le fondateur de Microsoft Word?
Non.
Le fondateur de Microsoft Word.
Parce que c'est aussi un logiciel, le jeu vidéo.
Je pense que le logiciel, du coup, une partie technique, mais aujourd'hui, les films, c'est aussi une grosse partie.
Et en fait, la partie technique, elle implique les 9000, je sais pas combien, employés d'Ubisoft.
Mais comme un film, Sylvain, on connaît pas les
chefs
opérateurs.
Mais t'as pas 9000 mecs pour faire un
film. Non, mais vas-y, dis-moi, quel est le lead chef opérateur sur Inception?
On s'en fout, on cherche le. Bah
c'est pareil
qu'un chef.
C'est pareil qu'un développeur sur un jeu vidéo, c'est exactement pareil.
Ouais, mais on connaît pas les développeurs, mais on connaît les chefs, on connaît les
Qui a fabriqué les briques de la maison qui a abrité ton enfance? Est-ce que tu le sais?
Non. J'en sais rien. Mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est que.
C'est bien ça le problème.
Si on connaît pas les chefs, Sylvain. On connaît pas les auteurs en fait des jeux vidéo. Mm-hmm. C'est parce que déjà c'est quelque chose qui est beaucoup moins répandu médiatiquement et c'est un objet qui est très compliqué.
On
qui
parle
est très
quand même
hybride.
Du premier loisir culturel.
Mais
au
oui,
monde.
C'est on complètement sur... répandu
mais oui,
médiatiquement.
Il y a pas de festival de Cannes du jeu vidéo.
Et...
Quoi?
Mais il y a l'E-Cube. Bah,
est-ce que le 3 est retranscrit? Est-ce qu'il y a des quotidiennes tous les jours sur TF1, sur Canal+ et sur M6? Non.
Oui, mais c'est un sujet qu'on a déjà abordé dans un 404. C'est que le jeu vidéo finalement est en concurrence avec la télé parce que pendant que tu joues, tu regardes pas les programmes. Donc la télé n'a aucun intérêt à parler de jeux vidéo.
Ouais, ça c'est un peu.
C'est vrai.
Sauf en disant c'est un phénomène nouveau.
Das, toi, profite un peu de ma vie là-dessus.
Je souhaiterais casser la table avec ma tête. Non, en fait, alors comme c'est de coutume avec Fibre Tigre, sa chronique est empreinte d'une mauvaise foi crasse. Mais on est habitué. Bon, mais je suis content de te retrouver.
Je suis ton padawan.
Le mois dernier, je comprenais pas. Là, je te comprends. C'est toi. Il y a pas de problème. Alors, ce que dit Fibre Tigre, encore une fois, il replace le côté flambe, le fait de vouloir briller à tout prix en société et blablabla. Là, je pense que c'est de la connerie.
On est tous d'accord, peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur ce point-là. Mais sur l'autre point,
pour moi, le jeu vidéo, c'est une industrie. Dans toutes les industries, tu as des petits artisans et puis tu as des usines. Voilà. Donc, Ubisoft, pour moi, c'est une usine. On ne connaît pas les responsables des produits qui sortent. Par exemple, le type en charge du projet Assassin's Creed, je ne sais pas du tout qui c'est. Mais parce que ce sont des jeux qui finalement ont vocation à occuper temporairement et puis de toute façon il y aura une suite et une suite de la suite et une suite de la suite. C'est des jeux de commande en fait, c'est un peu
ça arrive dans les autres arts.
Justement, est-ce que tu sais me dire quel est le metteur en scène du Transporteur 3? Je sais pas moi.
C'est une remarque qu'a fait quelqu'un de mon équipe, je me suis un peu de son nom, je suis désolé pour lui, mais il a dit les blockbusters. Ouais, les blockbusters, on ne sait pas qui a
le réalisateur.
Oui, mais c'est à part. De toute façon,
et toi.
ce qu'on veut dire, c'est que sur des blockbusters au cinéma, sur des séries télé ou sur des livres, il y a toujours au moins un auteur ou un acteur ou un visage humain qui incarne un peu l'œuvre. Alors que dans le jeu vidéo, c'est jamais.
Mais bien sûr que si. Je veux dire, Hideo Kojima qui fait des saltos avant, Yu Suzuki à l'époque de Sega.
Alors, qui connaît Hideo Kojima ici?
Voilà, bah excusez-moi, ça fait quand même beaucoup de gens.
Et on est représentatif de la population française.
Bon, ok.
Non mais
prochaine fois peut-être.
Je trouve vraiment que
c'est
super réducteur parce que les grands noms du jeu vidéo, on les connaît, ils existent, on en parle même dans 20 minutes ou dans Metro News que tu prends le matin. Metal Gear, il y a écrit Hideo Kojima quasiment aussi gros que Metal Gear, ok. Vrai ou pas vrai?
Il y a toujours une exception qui confirme.
C'est
là.
Pas très bien.
Mais non, mais pour moi, parce qu'on parle de l'auteur du jeu comme on parle d'un metteur en scène, et il y a des metteurs en scène qui sont pas super connus, qui font des films de commande, c'est tout. Et c'est exactement vrai. Pareil pour le jeu vidéo. Donc on retient l'œuvre majeure, on retient pas les œuvres de commande.
On connaît la société, on connaît la compagnie généralement qui fait les jeux vidéo.
On connaît la compagnie, mais comme les autres.
On connaît les gens aussi, non?
On connaît l'éditeur et on connaît les studios. Alors juste pour finir,
c'est un bon point.
Juste pour finir, sur Twitter, Forgaren nous dit que le média jeu vidéo en lui-même, il est jeune.
Non mais faut arrêter là, il a 40 ans.
Et qu'il faut du temps pour avoir la légitimité.
C'est quoi, il faut 200 ans en fait pour qu'il ait de la légitimité?
Comme pour le cinéma.
C'est comme pour le cinéma qui fait.
Non mais le cinéma est l'ami des médias dans le sens où un film fait vendre de la presse parce qu'il faut aller, il faut en parler. Un film fait vendre de l'espace publicitaire à la télévision parce qu'il faut le diffuser.
Là, tu as raison,
un jeu vidéo te coupe. Mais quand tu joues à un jeu vidéo, tu ne regardes pas la télé.
Mais il y a deux magazines
de
papier qui sont sortis cette année en France pour le jeu vidéo. Je veux dire, ça fait vendre du papier.
Alors donc
aussi.
Là, tu t'auto-contredis alors.
Mais je.
Mais non. Bah, non, mais c'est parfait.
Pourquoi tu dis ça?
Bah, parce que t'es en train de me dire que finalement, le jeu vidéo est un art majeur.
On va le laisser, Mélissa, on y va, nous.
Je dis qu'il est jeune. Ok, c'est bon.
On s'est pas compris.
Tu es ce soir.
On peut applaudir Sylvain pour la fière de son équipe. Vous en parlez tout à l'heure. Vous irez dehors tout à l'heure pour en parler.
Il y a de la monnaie à rendre.
Minsa, on va parler de séries et surtout de la manière dont on consomme les séries télé et peut-être la manière dont il faudrait les concevoir maintenant, vu la manière dont on consomme les séries télé. Je me suis fait comprendre?
Non, j'ai rien compris.
Non, mais c'est pas grave.
C'est pas grave. Je te laisse la parole.
On va tout réexpliquer. Donc on est parti des mots que tu m'as donné. Tu as utilisé un mot très intéressant, c'est le mot marathon.
Oui.
Marathon, c'est quoi? C'est au-delà de l'épreuve sportive, c'est donc enchaîner quelque chose pendant une durée assez longue pour que, voilà, c'est de l'endurance. Marathon, en fait, c'est un thème qui a été repris par les chaînes de télé quand elles se sont rendues compte que les gens, surtout sur Internet, regardaient les séries d'un coup en une saison.
Le fameux next.
Voilà. Et ils se sont dit, en fait, finalement, c'est bien. Et quand on parle de binge-watching, il y a ce truc de binge-drinking qui est sale.
Alors attends, déjà, le binge-watching...
Binge-watching, c'est regarder toute une saison comme ça d'un coup en deux jours. Tu regardes House of Cards en deux jours quand ça sort sur Internet. Et dans ce terme de binge-watching, il y a quand même une dimension très sale. Voilà, je me bourre la gueule, je finis à vomir. Et ben là, tu finis sale au bout de deux jours dans ton lit, t'es pas sorti, t'as pas mangé. Ça nous est tous arrivé. J'ai fait un petit sondage dans mon équipe. Ils ont dit oui, je binge-watch. Et en fait, à la fin, on s'est dit, mais en fait, on se sent pas sale, quoi.
Ah, attends, je comprends plus.
On se sent libre.
Bon, ça va loin.
C'est bon, ça.
C'est-à-dire que le binge-watching, en fait, on s'est pas dit on est pour le binge-watching ou contre le binge-watching. On s'est dit, sur certaines séries, ouais, on a envie de les binge-watcher. Moi, j'ai regardé Sherlock en deux jours, les trois saisons.
C'est une série anglaise?
Il y a trois épisodes par saison, hein, je précise.
D'une heure. Une heure et demie, ouais. Voilà. Donc c'est comme si tu regardais trois films à la suite et je prenais pas de pause. Et
ça, c'est du binge.
Et j'ai vraiment adoré faire ça. Et parce que surtout, en plus, il faut savoir que Sherlock, c'est une série qui est diffusée tous les ans. Donc il faut vraiment attendre un an avant de la retrouver pour trois épisodes. Donc ça va très vite ensuite, trois semaines. Et en fait, on s'est dit, on a plaisir à faire ça. Mais en fait, ce qu'on aime, c'est choisir de binge-watcher ou de pas binge-watcher. Et il y a des séries pour lesquelles on va pas forcément avoir envie de binge-watcher.
Lesquelles, par exemple?
True Detective.
Ouais.
True Detective, donc HBO, Matthew McConaughey, un super casting, une super intrigue. Et en fait, ce qui était génial dans True Detective, c'est que l'Internet t'a pas permis de binge-watcher, l'Internet t'a permis d'augmenter la série.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'une fois que t'avais fini l'épisode, t'allais regarder tous les subreddits, le subreddit
les forums,
dédié
tout ça.
À True Detective, et regarder toutes les enquêtes des mecs, ou toutes les possibilités de l'enquête qui était dans la saison. Voilà, toute la chasse au trésor des deux détectives et de suivre ça. Et donc, en fait, à la fois on fait ça et à la fois je vais pouvoir binge-watcher. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on faisait les deux et qu'on aimait pouvoir faire les deux.
Et donc, ça veut dire qu'il y a des auteurs et des diffuseurs qui ont compris différentes manières de vous proposer
qui essaie, en fait de ramener à la TSA, parce qu'en fait maintenant il y a des marathons où en fait à la fin des saisons ils rediffusent toute la saison en une nuit. Et donc, d'accord, en fait, ils essayent de s'approprier un truc qui est finalement, c'est même pas Netflix, tu vois, c'est le piratage qui a, oui, comme disait Nora, c'est le piratage qui nous a permis de binge-watcher et de regarder une saison d'un coup comme on voulait. En même temps, il y en a maintenant qui disent, non, moi, je vais attendre la fin d'une saison pour voir si la série est vraiment cool, et là, je la regarderai. Ça, moi, je le fais pas.
Ah bon, pourquoi?
Mais il y a des gens qui aiment le faire. Par exemple, Mathieu, qui était dans mon équipe, qui attend Game of Thrones, qui attend la fin de la saison, au lieu de regarder toutes les semaines, et du coup de...
Mais il fait comment, Mathieu, pour éviter les spoils? C'est pas moi qui fais, en fait. Ah, d'accord, c'est toi? Personne n'assume, en fait.
Si, si, il assume, hein, il défendait son point de vue.
D'accord, mais tu fais comment? Tu regardes le somme? Tu regardes personne dans la rue? Ça doit être très...
Mais on se disait, en même temps, l'Internet a un respect pour encore la diffusion de la télé.
D'accord.
Parce que sur House of Cards... Non, pas House of Cards. Ah, si. Mais du coup, c'est pas un respect pour la diffusion de la télé.
Ouais,
mais c'est-à-dire, par exemple, dans l'épisode 1 de la saison 2 de House of Cards, il se passe un truc énorme, et personne n'en a parlé. Fabrice me disait ça, personne n'en a parlé, et personne s'est fait spoiler. Moi, je connais personne qui s'est fait spoiler sur... Oui, mais c'était... Oui, Amandine parle de la bande-annonce de Canal+, de House of Cards, où on voyait une scène qui pouvait laisser penser. Voilà. Donc, en gros, toutes les deux pratiques de à la fois binge-watching ou pas binge-watching... En fait, nous, on veut juste avoir le choix. Et c'est ce que disait, en fait, Kevin Spacey, l'acteur qui joue dans House of Cards, dans une conférence qui a énormément tourné et que Nora m'a aimablement ressorti. Il avait cette citation, il dit « Il faut laisser le contrôle aux internautes slash spectateurs. Ils veulent la liberté. S'ils veulent binge-watcher, ils peuvent binge-watcher. » Et en fait, lui disait « Ce qui est génial, c'est que maintenant, on va plus savoir si c'est une série, un film, une mini-série. On connaît plus les formats. Ce qu'il faut, c'est donner aux internautes ce qu'ils ont envie et les laisser consommer comme ils ont envie. » Je pense que la télé, pour des besoins d'annonceurs, de logique, voilà, de fric, ont encore besoin de rythmer, d'étaler les diffusions sur des semaines et des semaines.
Quand d'autres, comme Netflix ou Internet, s'en foutent et disent « vas-y, prends tout ».
C'est ça. Après, c'est vrai que sur Netflix, on est tous d'accord que dans la dernière saison d'House of Cards, ça a enlevé le cliffhanger. Enfin, dans les trois derniers épisodes, il se passe énormément de choses. Et du coup, il y a plus ce truc qu'on avait dans True Detective. On se disait, oh, mais ça va être quoi, ça va être quoi? Et là, on se disait, ok, non, mais c'est la folie, quoi. Parce que d'accord, là, on binge-watchait et en fait, à la fin, on se dit, ouais, non, mais c'est un peu fou, quoi.
Donc là, du coup, tu modères un peu ton enthousiasme pour le binge-watching. Ça peut se retourner contre toi. Ça peut te gâcher un peu une série d'une certaine
c'est
manière.
C'est ça.
Même si elle a été conçue pour être regardée de cette manière, c'est-à-dire...
Sur le binge-watching de House of Cards, par exemple, il y a seulement 2% qui l'ont regardé en un week-end. Mais Netflix, par exemple, a fait une étude sur plus de séries, où en gros, c'est 50% en une semaine. C'est-à-dire que les gens s'automodèrent. C'est-à-dire qu'on leur donne une liberté. Il y a ceux qui veulent vraiment regarder en deux jours, et il y a ceux qui se disent, bon, je vais prendre quand même encore un peu de temps, et qui disent, non, je regarde une semaine.
Peut-être qu'ils n'ont pas le temps aussi, hein.
Oui, peut-être qu'ils ont des emplois,
peut-être qu'ils ont
des choses à faire le week-end, mais en gros, l'Internet nous donne le choix, et nous, en fait, on est un peu raisonnés, c'est-à-dire qu'on choisit encore dans ce choix, soit on va suivre comme on a envie chaque semaine, soit on va tous regarder d'un coup. Et il y a des gens qui ont fait House of Cards une fois par semaine, j'en connais, pour se dire, je regarde quand même la télé.
Genre, je connais des gens qui font des choses.
Qui n'ont pas regardé le premier week-end. Okay.
Merci Mélissa, on peut applaudir Mélissa et son équipe.
Bravo.
Le binge watching. Donc tu nous l'as quand même conjugué à tous les temps. Je binge watch, juste binge watchais, je binge watch.
Les anglicismes,
donc,
c'est
le
mal.
Binge watching et la manière dont on consomme les séries. Donc comme tu dis, beaucoup d'avantages et beaucoup de choix. Mais du coup, est-ce que on va en parler tout à l'heure, juste après Fibre, Daz et Sylvain.
Excusez-moi, il y a un petit peu de bruit derrière là. Si
mais les gens veulent parler, on va peut-être aller vite dans le débat parce que les gens ont envie de parler aussi derrière.
C'est
donc,
vrai. D'accord.
Voilà.
Dis donc, t'es ferme. Ouais,
non, parce que
dans un micro ou pas dans un micro d'ailleurs.
En fait, je me concentre sur ce que tu disais et en même temps, ça parlait dans mon oreille, donc c'est un petit peu compliqué.
Il n'est pas multitâche.
Sylvain, quoi.
Je suis de son téléphone.
Une journée difficile.
Ouais. Alors juste sur cette notion, est-ce qu'il faudrait pas carrément un guide? De dire cette série, elle est bien, elle est pas bien, elle se binge watch, elle se binge watch.
Mais le guide, en fait, c'est ce que tu dis sur Twitter, Facebook, Reddit. Enfin, c'est ça, si tu constitues ton guide en fonction de tes réseaux.
D'accord.
T'as pas besoin d'avoir un endroit où tu vas dire c'est bien, c'est pas bien, parce que
surtout,
personne ne consomme de la même manière.
En fait, cette pratique, je grille la préo, je suis désolé. Cette pratique, quand même, n'est pas adaptable, enfin, s'adapte pas bien forcément à toutes les œuvres, en fait. Si tu binge watch 24 heures chrono.
Est-ce que tu le fais des fois, toi?
Moi, je le fais, ouais. House of Cards, je l'ai binge watché à ma sauce, hein. C'est-à-dire que j'ai quand même une vie. House of Cards, la saison 2, je l'ai regardé peut-être sur deux semaines, je crois.
Mais je veux dire, toutes les séries ne sont pas écrites pour être regardées comme ça. Ouais. Et tu regardes un épisode de Prison Break, une saison de Prison Break, la première, puisque c'est la seule qui vaut le coup, ou une saison de 24 heures chrono, de 24. Si tu la regardes à la suite, tu dis, bah, laissez-moi tranquille, arrêtez avec vos cliffhangers toutes les 20 minutes, j'en peux plus, quoi. Donc il y a vraiment ce côté aussi, il faut quand même que l'œuvre soit adapté au type de consommation.
Et ça a changé l'écriture en fait.
Il faut un mode pour l'instant, la seule œuvre réellement prévue pour être vue comme ça, c'est House of Cards. Je veux dire, il n'y a pas d'autre.
Non, c'est Arrested Development.
Ouais, alors attends, Fibre, bon. Il y a une autre œuvre.
Arrested Development, non. La dernière saison, quelques années après la troisième, est passée sur Netflix aussi en mode où on vous déballe tout le premier week-end.
Non, mais là, c'était fin de stock en fait, parce qu'au départ, elle était conçue comme ça.
Elle était conçue comme ça.
C'est pas que tu veux dire quelque chose.
Non.
En fait, moi je veux bien dire quelque chose.
Sylvain était dérangé par les gens là-bas et on irait les taper.
Non, mais je voulais dire qu'effectivement, il va nous falloir maintenant un mode d'emploi à chaque fois qu'il y a une série qui sort pour savoir comment la regarder, sur quel format.
La binge-watchabilité.
Alors celle-ci, on vous la conseille sur tablette parce qu'effectivement, les couleurs ressortent un peu
mieux. How I Met Your Mother, la série a enfin fini il y a deux jours aux États-Unis. Ouais. Moi, je ne binge-watcherai jamais cette série, ouais, parce que déjà elle est hyper longue et en plus tout le monde m'a dit je suis hyper déçu par la fin, donc jamais en fait c'est d'accord, ça mon guide qui me permet de savoir comment je vais consommer ma série.
C'est à dire que si on te dit que c'est bien, tu regardes tout d'un coup en fait.
Si on lui dit que c'est bien et qu'il faut qu'elle regarde tout d'un
non
coup,
non, oui. Si on me dit c'est pas bien et en plus c'est long, bah non, je vais pas regarder quoi.
Oui, mais là tu regardes pas
et
du
je vais
tout,
je vais pas binge-watcher non plus.
Fibre,
je ne regarde plus de série depuis 2013.
J'ai une depuis tout à l'heure, Fibre, il prépare son.
Non, il travaille.
Voilà, j'ai une vie. Par contre, je suis absolument contre le binge-watching. Et je précise que le binge-watching, il est issu du piratage.
Oui.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand les médias s'adaptent à ça, ils essaient de faire du damage control sur le piratage. Mais ça charcute le travail des auteurs. Parce qu'en fait, une série, elle est censée avoir des rebondissements, par exemple, et ou, on va dire, des techniques spéciales qui vous font revenir une semaine après et pas cinq minutes après. Et donc.
Mais pourquoi?
Pourquoi quoi ?
Pourquoi en fait se conformer aux règles qui ont été établies par la télé et la publicité en fait ?
Après tu fais ce que tu veux, mais le fait de le binge-watching a altéré la création de séries. Par exemple, il y a un genre qui a disparu, qui était très populaire il y a 4000 ans, c'est la tragédie. Aujourd'hui, vous pouvez pas faire une série qui commence par la fin, tu vois, qui dit voilà, il va se passer ça à la fin, parce qu'il y a une nécessité de rebondissement permanent. Je pense que c'est le cas de House of Cards que je connais pas, qui vous accroche et qui dit j'ai besoin de voir la suite. Alors voilà, bon, je connais pas. Mais bon, ça c'est la première idée, c'est-à-dire détournement de l'utilisation initiale.
Ça n'existe pas.
Et comment ça s'appelle ? Le fait que des genres très importants comme la tragédie ne peuvent plus exister dans le paysage audiovisuel moderne. Et surtout, moi, ce que je vois quand les gens ils parlent de Lost ou Oh, I Met Your Mother, j'ai l'impression que c'est un putain de travail. C'est-à-dire, les mecs, ils disent je me tape la saison 7 parce que la 8,
c'est
elle est bien, tu vois.
C'est faux. Un cri s'est élevé dans le public. C'est faux.
Attends.
Il connaît pas la série.
Il y a des gens. N'est-il pas vrai qu'il y a des gens qui se forcent à regarder des séries dans l'espoir que ça va devenir bien un jour?
Il y a deux personnes sur Twitter qui font ça.
Non, mais c'est pas vrai.
Alors, vas-y. Amandine dans le public.
Je réagissais sur la tragédie. En
oui,
fait,
vas-y,
c'est
dis-moi.
C'est faux. Pour moi, Breaking Bad, c'est une tragédie.
Parce que Breaking Bad commence certes par un petit passage qu'on verra à la fin de l'épisode, mais s'il commençait par la véritable fin de Breaking Bad, là on aurait tout. Et moi Breaking Bad, j'aurais tout au bout de deuxième épisode.
Spoilez pas Breaking Bad, vous êtes au bord du dérapage là.
Quoi ?
Pour ceux qui l'ont pas fini.
Et d'ailleurs, moi j'ai la culture du spoiler et je suis pour le spoiler.
Oh là là, ça c'est autre chose. Alors, juste pour finir.
Attendez, je veux dire pourquoi.
Non, ne spoil personne, arrête.
Non, attendez.
Repose ce spoiler.
Excusez-moi.
Ce bras fibre.
Apologie du spoiler, je veux dire pourquoi. Je veux dire pourquoi. Si on se concentre, si on pense que le spoiler, le sacro-saint spoiler, il n'y a que le plus important que le spoiler, c'est-à-dire que tout le reste n'est pas important, la mise en scène n'est pas importante, le jeu d'acteur n'est pas important. Or, dans la tragédie, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans la tragédie, vous savez comment ça va se terminer, c'est-à-dire le mec va mourir. Et ça, vous vous en foutez de l'histoire. Tout ce que vous voulez savoir, c'est qu'est-ce qui va se passer, comment ça va être interprété, quel va être le travail de l'auteur, et ça, on n'en a plus rien à foutre. Et c'est pour ça que les spoilers sont si importants.
Ah,
et
je dis,
vive les spoilers.
Mon dash, tu te contredis là, parce que tu dis que binge-watcher, c'est dégueulasser le travail de l'auteur qui fait des rebondissements, qui fait des trucs qui sont des cliffhangers.
J'ai dit que ça menait à la fin de la, du genre qui était la tragédie.
Ouais, juste avant, t'as dit que c'est dégueulasse le travail de l'auteur quand même.
Oui, aussi.
Je la fais
plus,
pas à moi.
En plus,
oui, bien sûr. Juste... Et là, tu dis qu'il faut pas que les spoilers, c'est bien parce qu'en fait, on s'en fout des rebondissements.
À la fin d'Out There, le jeu de fibres, oui. Le personnage meurt.
Il n'y a pas de fin.
Dans
il
beaucoup de parties. Dans beaucoup de parties.
Je sais. C'est pour ça que je dis ça.
On arrête ça. Juste une dernière question, juste à Mélissa, parce qu'on a très peu de temps maintenant. Sur Twitter, j'ai lu un truc qui est rigolo mais qui est pas con. Quelqu'un qui dit je binge watch Top Chef. Et on se rend compte, je me rends compte que dans mon entourage,
gros problème.
Je connais des gens qui binge watch des émissions comme Survivor ou Koh-Lanta et qui se font des saisons vrai. Entières. Est-ce que
pourquoi
ça pourrait s'appliquer aux émissions? Et on finira là-dessus et vous n'avez pas le droit de répondre les mecs tout de suite. Mélissa, est-ce qu'on peut binge watcher, ça s'applique à d'autres types de problèmes que les séries?
Pourquoi cette personne doit faire ça? Parce que dans Top Chef, il y a énormément de pubs.
Oui.
Et c'est aussi pour ça qu'on regarde sur internet, parce qu'on ne veut pas la pub aux États-Unis, c'est horrible, il y a des pubs toutes les 10 minutes.
Mais tu peux enchaîner 9 heures de Top Chef?
Non, moi je le ferai
ça
pas.
Fait beaucoup de plats quand même, ça.
Mais si la personne n'a pas envie de se taper les pubs et en plus de tout regarder une fois sans avoir à attendre le lundi suivant, mais ça je comprends pas trop cette logique. Hein.
Non, mais
vraiment,
c'est aussi parce d'accord. que Top Chef emprunte les codes, et toutes ces émissions-là empruntent les codes du cinéma et de la télé, avec la musique d'Armageddon pour faire un tartare de saumon ou des trucs comme ça. Et voilà, il crée quand
là,
même
par contre,
l'histoire en fait.
On retrouverait la dimension sale du binge watching parce que je pense qu'il y a un moment où juste tu satures justement de toutes ces trucs d'Armageddon.
Tout l'intérêt de Top Chef, c'est le voir en direct sur Twitter, donc je vois pas l'intérêt de le regarder à part.
On arrête là, on applaudit Mélissa et son équipe. Merci Mélissa. Sylvain s'installe, les membres de son équipe s'installent. On en est déjà à la quatrième et dernière chronique parce que ça va vite. Sylvain,
ouais,
de quoi on va parler?
Attends, faut que je retrouve l'intitulé du sujet.
Tu la connais par cœur?
Donc pourquoi les créateurs de jeux vidéo sont-ils anonymes? Non, c'est les grands changements se passent et notre enthousiasme trépasse. On va parler de progrès, d'innovation, d'invention, de futur.
Et de blasitude.
Un petit peu comme d'habitude. Et surtout de blasitude et de non-enthousiasme. Pour illustrer cette blasitude, je vais demander à Charlotte de me parler...
Attends, on va passer le micro de...
Ouais, de ce qu'elle pense de l'Oculus Rift, Charlotte. Tu peux nous expliquer?
Alors, l'Oculus Rift, le casque de la réalité virtuelle.
Alors, moi, ça va faire plaisir à Fibre Tigre parce que je partage complètement son excès de démence. Je fais, ah ouais, bon, d'accord, et un truc, c'est de la réalité virtuelle, so what? T'as l'air d'avoir un rehausseur sur la tête, ça m'a pas trop plu. Je me suis dit, bon, très bien, je pense que si t'es gamer... C'est un peu, je pars un stade au-dessus en termes de réalisme et de plein de trucs, mais moi, ça ne me fait pas du tout vibrer.
Tu m'as même dit, je te cite, hein, je suis en train de lire mes notes, c'est de la merde.
Non, ça c'est quelqu'un d'autre, puisque je n'ai pas pu dire c'est de la merde. J'y connais rien, donc je ne suis même pas.
Non, mais
j'en approprié comme.
Quelqu'un peut lui prendre le micro, parce que j'aimerais parler.
Mais qu'est-ce que tu fais ce soir?
Ouais, je suis taquin ce soir, je rigole, Charlotte.
Qu'est-ce qu'il dit que c'est de la merde? Parce que quelqu'un l'a dit, il a dit c'est pourri.
C'est
quelqu'un peut assumer? Quelqu'un peut assumer?
Mais je pense ouais, c'est de la merde.
Voilà. Ah bah,
voilà, et bah voilà.
Donc non, en fait, dans ton équipe, les gens, ils. Non.
Ouais, non, ils étaient bien blasés parce que, ouais, effectivement, ils trouvaient que de toute façon, toutes les innovations qu'il y avait eu récemment, effectivement, c'était un peu pourri et que ça les faisait pas rêver. Et puis, on s'est du coup posé la question de ce qui nous faisait rêver.
Oh, j'aimais quand tu fais ça.
Qu'est-ce qui nous fait rêver?
Normalement, la lumière...
Levez-vous. Non, je déconne. La lumière se baisse, normalement.
Ouais.
Et puis, on s'est dit, nous, notre vision du futur, elle a été dictée par les films de science-fiction, les livres de Jules Verne, les livres d'anticipation, etc. Et nous, on s'est dit, 2014, on aimerait voir des voitures volantes, on aimerait voir des overboards, on aimerait voir, je sais pas, des machines à voyager dans le temps, des portails de téléportation pour se transformer en mouche. Ouais, avec Jeff Goldblum. Ouais, voilà. Et on s'est dit, du coup, ce qui nous font rêver, c'est plutôt les histoires et l'héritage culturel qui a façonné notre vision du futur et de ce que devrait être l'innovation, et pas vraiment ce qu'on nous vend aujourd'hui.
Pourtant, il y a des choses... Enfin, si on les remet dans le contexte, il y a des choses complètement folles qui se passent. Et on voit encore des séries télé où un agent secret disait « Envoyez-moi une image satellite de la rue avec un opérateur qui lui a envoyé le truc, qui galérait. » Alors qu'aujourd'hui, c'est un smartphone.
Tout à fait, mais ça nous fait pas rêver parce que ça existe.
Ah.
Ouais. Mais si les histoires nous font rêver, alors les histoires qu'on peut raconter autour des objets qu'on nous vend, est-ce qu'elles peuvent nous faire rêver? Est-ce que la publicité, est-ce que la communication peut faire rêver les foules? Eh ben, pourquoi pas? Pourquoi on peut pas être enthousiasme avec une bonne com, avec une bonne histoire racontée? Eh ben non, en fait, ça a l'effet inverse. Parce que trop de communication tue l'idée, en fait, de l'objet. On se rend compte que on nous vend plus l'idée que le produit. Et, on nous vend en fait le teasing, on nous vend le pré-teasing, on nous vend le post-teasing, on nous vend le contenu de blog, on nous vend le test qu'on a envoyé aux blogueurs, on nous envoie oh la pub officielle, oh là là putain il y a des déballages de youtubeurs. On nous vend tellement de choses, tellement, on nous file tellement de contenu autour d'un produit qu'au final quand le produit sort,
il est déjà dans la dans ta vie.
Il est disséqué de partout, il y a des mecs qui l'ont eu avant toi, t'as plus aucune surprise, tu sais exactement comment il marche, tu déballes ton truc, tu fais ah c'est marrant, c'est exactement comme dans la vidéo que je viens de voir, et du coup effectivement, il n'y a plus de rêve.
D'accord.
Donc, trop d'histoire, non, on ne peut pas non plus nous rendre notre enthousiasme.
T'es en train de tuer ton métier, là.
Notre enthousiasme d'enfant. Et en plus, on est dans une culture de la start-up où tous les produits sont en bêta. Ah merde, excuse-moi, Ed, j'ai oublié de te faire intervenir, c'est pas grave.
Qui voulait intervenir?
Ouais, mais c'est pas grave, je voulais te faire parler de Retour vers le futur, c'est pas grave. Tu interviendras tout à l'heure. Et en plus, on est dans une culture de la start-up où tout est toujours en bêta. C'est-à-dire que tu prenais l'exemple de la Galaxy Watch d'Az. Effectivement, on sort un produit.
Non, non, Daz, tu as ta demi micro.
Si. Effectivement, on sort un produit qui ne fonctionne pas.
Oui.
C'est un problème.
C'est du Samsung.
C'est un problème.
Ça casse le fantasme.
Et il y a énormément d'entreprises qui font ça. Google, là, file des Google Glass à tout le monde. Le truc est bon, pas super au point, mais ils vont faire des mises à jour toutes les semaines, tous les mois, voilà, des plus 1, on va incrémenter, etc. Et on est toujours dans un système de version bêta. Ah Gmail donc... est toujours en bêta, je vous rappelle.
Non, oui, c'est vrai.
Bon, enfin, ouais, enfin, pas, de, pas depuis 6 mois, quoi.
Mais donc, en fait, ce que tu veux dire, c'est que l'arrivée du progrès, elle est tellement progressive qu'en fait, il n'y a pas de choc.
Exactement.
D'accord.
Exactement. Et pourtant, on a essayé de réfléchir, on s'est dit, quelle est la dernière nouvelle, quelle est la dernière invention, découverte qui nous a fait vibrer? Et là, je voudrais demander, par exemple, à Nawel de me dire ce qui l'a fait vibrer. Hein ? Qu'est-ce qui t'a fait vibrer,
Nawel ? Ok, donc c'était pas que ça m'ait fait vibrer, mais effectivement, une découverte super récente qui, normalement, devrait avoir marqué les esprits, c'est la découverte sur la théorie du Big Bang et les confirmations. Et en fait, on a tous lu des choses. Enfin, je sais pas si vous avez lu des choses, mais moi, j'ai lu des choses que j'ai pas compris. Voilà, c'est ça.
C'était pas
Et pourtant, on nous présente ça comme une découverte majeure, comme un bouleversement de toutes les recherches qui ont été faites sur le Big Bang pendant des années et des années.
Donc tout découle derrière.
Voilà, et en fait, sauf qu'on lit ça et on se retrouve face à un truc où on se dit bah, finalement, je vais aller voir ce qui se passe sur l'Oculus Rift ou sur les Google Glass parce que. Bon,
parce que je comprends rien. Non, et puis surtout, le truc sort et
donc t'as, ça, c'est un autre problème.
T'as tous les mythos sur Twitter qui font ah putain, on a découvert le boson de Higgs. Vous savez pas ce que c'est, mais c'est super important, je vous jure. Et toi, tu fais ouais, ça a l'air cool, je vais le retweeter. Et en fait, ce qui est très important, c'est que ces mecs, ça fait 10 ans qu'ils bossent dessus, mais qu'on n'était pas au courant.
Oui.
Parce que c'est des scientifiques qui s'en foutent de la communication.
Quoi, ils tweetent pas leur truc?
Non, ils tweetent pas.
Quoique,
pas le CERN, mais le CNRS a sorti un super magazine en ligne, le journal CNRS, je vous le conseille.
Bon, okay.
Et bref, ce qui est très important, ce qui nous remue un peu le bide quand on nous dit on a découvert l'origine de l'univers, c'est pas en soi qu'on l'ait découvert, c'est qu'on... Le truc est soudain en fait. Il y avait pas de progression. On savait pas que les mecs bossaient dessus. Et d'un coup, ça nous arrive sur la gueule et on fait putain, c'est cool quoi.
Donc en fait, t'as une vision très romanesque du progrès. Il faut que ce soit un truc.
Mais je pense
émotionnel.
Je pense qu'on est toujours dans notre âme des grands explorateurs et des grands découvreurs et qu'on a besoin de découvrir les choses plutôt que les inventer.
Oh, on peut applaudir Sylvain et son équipe.
Cette
pour finir, on est quand même des gros gosses de riches un peu pourris. Parce que je vous rappelle qu'il y a 10 ans, on se connectait sur Internet avec un modem 56K et que c'était un petit peu galère. J'ai oublié de faire le bruit, mais j'ose pas.
Quel beau beatbox.
Pas mal, hein, pas mal.
Ouais, tu fais
rêver. J'étais sur Wanadoo, moi. Et vous, Frisbee, cool. Et en fait, parce qu'en 10 ans, il y a eu des progrès extraordinaires, mais c'est tellement progressif et on a tellement peu de recul sur les choses, parce que tout va très vite et qu'on a beaucoup de contenu, qu'on se rend pas compte de la chance qu'on a.
Voilà. Merci, on peut applaudir Sylvain. Toujours poète, Sylvain. Là, elle va mettre.
Mais très, très bon point.
Alors.
Très bon point sur la fin.
On a très peu de temps par rapport au timing qu'on s'était donné, qu'on a, exposé. Pour en discuter, du coup. Daz, est-ce que tu m'avais l'air plutôt presque bienveillant par rapport à ce que Sylvain a dit?
Sur la fin, ouais. Au début, non. En fait, je pense que la génération de Sylvain, cette génération d'une lettre alphabétique, c'est un peu des enfants gâtés.
Ah, c'est ce qu'il a dit.
C'est un peu, ouais, mais à la fin. Donc pendant tout le temps, j'avais envie de le gifler. Et à la fin, en fait,
à la fin, t'avais une petite larme.
C'est un constat. Non, c'est vrai que moi, on réalise assez difficilement la chance qu'on a d'utiliser certains trucs qui feraient rêver nos parents s'ils s'intéressaient un peu à la techno. Ça, c'est autre chose. Mais enfin, je sais pas, moi, quand j'ai vu les premiers hélicoptères pilotés par infrarouge, les hélicoptères qui font 3-4 centimètres.
Ouais.
j'étais en admiration totale, alors que c'est complètement con, c'est vendu 20€ et plus personne se retourne dessus, mais moi j'ai regardé le truc, j'étais...
Ou les drones dont on a fait...
Ou les drones, ouais, mais le drone est plus bruyant, mais je veux dire, le fait qu'on puisse piloter des petits machins par infrarouge, qui volent, qui se posent, qui vont là où tu veux, et que ça coûte que 20 balles, tu te dis, mais c'est ça le futur, en fait.
Ouais.
Le fait qu'effectivement, tu sois sur Google Maps toute la journée, le fait que tu puisses contacter n'importe qui sans avoir un numéro de téléphone, et il n'y a plus toute cette logistique, tu vois, de je pars en soirée, il faut que je retienne tout, parce que sinon, je suis perdu dans la rue et je suis foutu, parce que personne m'entendra, et voilà. Là, je sais pas, pour moi, ça, c'est un progrès de dingue. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais tu t'en rends compte quand tu regardes des séries télé, par exemple, qui sont un peu vieilles. Par un peu vieilles, je dis qu'on 10 ans. Donc tu regardes, par exemple, The Wire. Tu te rends compte que, je sais pas, moi, l'intrigue aurait pu être pliée en saison 1. parce que, voilà, c'est à l'époque, les mecs n'avaient pas de techno.
Ils tapaient leur truc. Ils faisaient les séries, le binge-watching.
Mais non, mais parce que... C'est
dans les conférences quand il y a le mec qui résume tous les intervenants.
Non, mais c'est marrant, justement, de voir, en fait, que on parle souvent du passé, type maintenant versus années 60, années 70. Il suffit juste de regarder maintenant versus 1998. Donc tu regardes Independence Day, tu te suicides. Allez,
une clé USB pour sauver le monde. Fibre.
Deux idées. La première, c'est que...
Deux idées dans le sujet ou tu vas déraper ?
Déjà, je vais donner deux idées rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Oui. Première idée, comme disait ma grand-mère, chat échaudé craint l'eau froide. Ça fait, ça fait 2000 ans, ça fait 10 ans qu'on... Ça fait 10 ans que tous les jours, il se passe un truc extraordinaire dans le monde de la technologie. Ça va révolutionner nos vies dans la publicité. Des banques vont révolutionner nos vies. On n'en peut plus. Je veux dire, nos vies ne sont pas du tout révolutionnées. Il ne se passe rien. Et voilà. Et donc, on est hyper déçus. Donc, c'est pour ça déjà qu'on est pas du tout excité par la technologie. Et en parlant d'excitation, justement, la communication technologique manque d'érotisme. L'érotisme, c'est aussi une nana qui n'est pas à poil, mais qui a un petit peu de lingerie pour cacher l'essentiel. Et justement, ça manque de mystère. Et
je l'ai perdu,
pourquoi moi. Les gens, pourquoi les gens, aussi, pourquoi les gens, ils ont adoré l'histoire de l'astrophysique, parce qu'astrophysique, personne ne comprend rien. Et finalement, il s'est passé un grand truc. Personne n'a rien compris les détails, mais ils savaient que c'était très important et tout le monde le retweetait. Voilà. Et les gens qui savaient exactement de quoi ça parlait ont dit ouais, bof, voilà.
C'est un peu la métaphore du crapaud que tu mets dans une casserole. Si tu le jettes dans l'eau bouillante, il va sauter. Si tu le fais bouillir l'eau petit à petit, il va mourir.
C'est cruel. Mais t'es cruel aujourd'hui.
Mélissa, est-ce que toi, t'es enthousiaste ou est-ce que les choses te sont dues et tu vois un nouveau truc à part, tu fais bon, bah oui, c'est mieux, c'est plus rapide, c'est plus petit, c'est la cybernétique, c'est l'immortalité, mais.
Je trouve que bizarrement, ça va pas encore assez vite.
Donc toi, pour toi, ça va pas encore assez vite.
Parce que par exemple, les Google Glass, ça fait quoi, un an et demi qu'on en parle.
Bougez-vous les mecs.
C'est toujours en 0.1.
Ouais.
Et du coup, on les utilise pas encore. Donc je trouve que les développements, on parle beaucoup des développements, mais en fait, ça fait un an et demi qu'on parle de Google Glass et il y a pas d'application.
Mais parce qu'il faut créer les
mecs qui en portent, ils ont l'air cons encore. Enfin.
Donc toi, tu penses qu'en fait, les progrès technologiques qu'on t'annonce vont presque trop lentement.
Bah en fait, au lieu de teaser les trucs, on devrait les faire comme les mecs qui parlent pas de leurs trucs et qui sont dans leur laboratoire à 10 et qui font leur truc.
Tu rejoins un peu Sylvain là-dessus,
ouais,
du coup.
Tout à fait.
Non, c'est pas possible. Aujourd'hui, dans le monde est trop en communication.
Il y a des mecs qui le font, quoi.
Si tu ne communiques pas, si 50% de ton travail n'est pas dans la communication de ta propre action ne sera pas connue.
Je sais, mais le CNRS fait ce super truc, ça commence à être connu, ils ont compris ça, mais du coup, ils passent pas trop de temps à ça. Là, Google passe trop de temps à marketer les Google Glass. Ils ont fait faire des tests depuis,
enfin, ils font 1000
tests de Google Glass. Personne ici, enfin, il y a 3 personnes qui ont dû tester ici.
Mais parce que si demain, un mec arrivait avec des Google Glass, sans que tu sois prêt à ça, ça se terminera en bain de sang. Le mec te dit,
mais
je peux prendre une photo de toi quand je veux.
Son truc au lieu de.
Ils équipent le maximum de gens pour que les gens les testent et ils font de la communication et du contenu dessus pour que ça rentre finalement.
Dans les mœurs.
Tout un petit à petit dans la vie quotidienne des gens.
Ça vous rend pas fou de savoir qu'il y a des voitures qui conduisent toutes seules déjà dans les faits, qu'il y a des vols commerciaux dans l'espace, qu'on a des bombes d'organes synthétiques. Ça vous dites, ok, cool.
Mais parce qu'on en parle, tu vois. Tu vois, c'est le jour où je rentre dans un bâtiment et qu'on me dit, ah, au fait, je t'ai pas dit, mais là. En fait, on fait pousser des cœurs artificiels. Je fais waouh.
Bah, c'est ce qui est vrai.
Ouais, mais non. Parce qu'on a parlé avant de me le montrer, tu vois.
D'accord, ok. Donc en fait, vous êtes des grands enfants gâtés pour de vrai.
Oui,
mais oui, c'est ça.
S'il n'y a pas d'emballage cadeau, c'est nul.
Oui. Bande d'ingrats.
Non, mais on subit aussi les révolutions. Je veux dire, c'est pas des choses qu'on a désirées. Si je voulais aller absolument dans l'espace. Et que effectivement les vols commerciaux étaient à, je sais pas, 1000€ le vol commercial dans l'espace, ben ce serait très sympa. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on a, les Google Glass, moi je les ai pas voulu. Et si tu me les donnes demain, peut-être que je les utiliserai pas.
Là, toi, t'es plus l'ado qui a pas demandé à vivre, c'est ça?
Non, c'est pas ça. Mais
si. C'est moi. Hein.
Beaucoup de choses, on n'en a pas besoin. Voilà.
Non, mais en fait, Internet.
Si je veux finir.
Internet nous spoil. Parce que à l'époque où les mecs ont inventé.
Internet nous spoil au sens spoiling de série ou nous spoil gâte.
Spoiling de série.
D'accord.
Parce que à l'époque où la première voiture est sortie, j'étais pas là, mais j'imagine, les types se sont dit. Dans les petits villages, putain, j'ai entendu parler d'un truc, là-bas dans cette grande ville, il y a une sorte de locomotive mais qui est pas sur des rails, peux monter à deux dedans, il y a de la fumée qui sort, enfin c'est un truc un peu chelou. Et les mecs se fantasmaient un truc, ils se disaient putain mais ça doit être complètement dingue. Là on a direct les images, on a direct le truc, on a direct la vidéo de promo, etc. On fait plus travailler notre imaginaire et c'est peut-être ça aussi qui nous gâte.
D'accord, donc réenchantons le progrès pour le en jouir, c'est ça?
Tout à fait.
Bon, et ben on peut applaudir Sylvain et son équipe. Merci à nos trois intervenants de début d'émission qui sont venus pour discuter avec moi. C'était très intéressant sur la nécessité justement d'apprendre le code dans les fesses. C'était très intéressant. Merci à vous, chers chroniqueurs. Merci à Angie, merci à James, merci à Justin et surtout merci à la Gaieté Lyrique de nous avoir accueillis. On se retrouve peut-être le mois prochain avec encore des surprises et des chaises qui tournent dans tous les sens. Merci à tous. Bye bye.
Merci.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.